Apple Différemment est un podcast de vulgarisation du monde Apple. L'idée est de vous simplifier les termes techniques qui nous compliquent souvent la vie. On va parler d'usage, de besoins, d'envie et de notre passion de la marque, à travers ses produits, ses services et son histoire. Alors bienvenue à Apple Différemment. Salut Audrey, bonjour, bienvenue à tous, bienvenue à Audrey qui débute sur Instagram avec nous aujourd'hui puisque nous diffusons en direct. Comment vas-tu Audrey?
Salut Matt, ben ça va. Écoute, alors ça fait très longtemps que je suis sur Instagram, mais c'est vrai que c'est mon premier direct. Donc ben tu vois, je suis contente de commencer, de débuter cette expérience avec toi, c'est cool. Et puis avec tous les gens qui nous suivent, je reconnais les pseudos, c'est cool. Salut Tommy.
Et tu sauras que pendant l'émission, je pourrais avoir toutes sortes de caractéristiques parce qu'on peut avoir des oreilles de chat, on peut avoir des oreilles de chien. Alors, je vais m'amuser à ça pendant l'émission. Et en fait, c'est une petite primeur sur Instagram. Vous pouvez nous écouter à l'enregistrement. Quand on va enregistrer, je vais essayer de prendre l'habitude de vous l'annoncer à l'avance et disponible aussi en replay, comme disent les Français, pendant 24 heures. Et ben oui, ben c'est ça, j'ai présenté Audrey, je vous souhaite bienvenue. Audrey, qui est formatrice, youtubeuse Apple, écrivaine. Pendant la dernière émission, tu nous as expliqué que tu avais publié ton dernier livre sur capture d'écran. Comment vont les ventes? Est-ce que tu as acheté une Rolls-Royce, Audrey?
Pas encore. J'approche les 200 exemplaires, quand c'est même. Pas mal.
Ah ouais?
Ouais, pour une première, c'est pas mal. Et puis surtout, ça m'a permis de reprendre contact avec ma génération. Et du coup, j'ai écrit des petits articles pour eux. Enfin non, pas des petits articles, des articles tout court.
Oui.
Et donc ça, je suis super contente parce que MacG, c'est vraiment un site que je suis depuis toujours. J'ai passé des heures et des heures sur leur forum quand j'étais, je sais plus, il y a 10-15 ans de ça. Et donc, je suis assez flattée qu'ils me laissent écrire pour eux et qu'ils d'être pigiste pour eux, c'est cool.
Alors, on fait le tour. Mac Génération, ta chaîne YouTube, formation Apple, ton site, t'es partout. T'es aussi des fois dans des émissions d'autres podcasts que Apple Différemment, je pense.
Je suis le mercredi soir parfois sur Watch, c'est une chaîne de télé sur le câble où on fait du... Enfin, je suis en duplex et on parle tous les mercredis soirs d'Apple. Donc, je fais pas tous les mercredis soirs parce que ça fait beaucoup, mais... Je fais, je sais pas, tous les 15 jours, toutes les 3 semaines, voilà, c'est une super équipe, tout le monde est super sympa, donc je les salue s'ils nous écoutent. Et ouais, iWeek, c'est le nom de l'émission, c'est une bonne émission, on parle d'Apple et puis il y a des cadors là, c'est vraiment les pros, donc c'est hyper intéressant à suivre. Mais je pense que ceux qui nous suivent, qui nous ont rejoints là, connaissent cette émission.
Bon, ben, quant à moi, ben, podcasteur, blogueur et en fait, je suis un fanboy de la marque. Et ben, pour ceux qui me suivent et qui me connaissent, vous savez que j'aime beaucoup les produits Apple et que si je pouvais avoir une commission sur tous les produits que je vends, j'aurais aussi, moi, ma Rolls-Royce comme Audrey. Alors Audrey, grosse émission aujourd'hui, beaucoup de nouveautés. Peut-être juste une petite aparté, vous avez peut-être vu des titres changer dans le flux, ceux qui sont abonnés au flux audio de Apple différemment en podcast audio, vous avez vu qu'il y a eu des changements. Apple a relancé le fait que ben, dans ses recommandations, il ne voulait plus voir, en tout cas, il préférait ne plus voir des titres, des numéros d'épisodes dans les titres. J'ai fait le ménage, c'était bien, il n'y en avait pas beaucoup dans Apple différemment à faire le ménage. Mais comme on essaye d'avoir une émission un petit peu intemporelle, ça nous dérange pas trop, nous. Et puis, de toute façon, ben, il y a la date de sortie de l'émission. Alors, si vous voulez avoir une espèce de suivi, une espèce de numérotation dans les épisodes, vous allez vous y fier, mais avec la date seulement. Au niveau d'Apple, qu'est-ce qui s'est passé cette semaine chez Apple, Audrey?
Alors déjà depuis, en fait on a retardé un petit peu le podcast, ouais, puisque on enregistre à peu près milieu du mois d'habitude, et là on s'est dit, on savait qu'il y aurait un spécial event pour les produits Apple, et puis là on s'est dit qu'on allait vraiment attendre pour être sûr d'avoir toutes les nouveautés, pour pouvoir vous en parler, et puis surtout on a vu qu'il y a eu donc des nouveautés matérielles déjà sur une semaine. Ils nous ont sorti plusieurs produits dans la semaine. Et puis, la semaine dernière, en effet, il y a eu l'event. Et donc, on a eu droit à plein de nouveaux services. Donc, il faut démêler tout ça. Et il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses. Enfin, je ne sais pas ce que tu en as pensé, Matt, mais ça, On va y revenir, mais ça a été un peu long. Et ouais, il y a beaucoup, beaucoup de choses à voir, quoi.
Bon, en premier, on avait fait des prévisions sur la gamme à iPad, la dernière émission. On ne s'est pas trop trompé, hein, en fait. Tu me le disais qu'on avait fait des prédictions la dernière émission. Et puis, on avait vu juste.
Oui, on avait vu juste parce que déjà on avait parlé de, il y avait un, même si les nouveaux iPad Pro étaient sortis, il y avait un iPad Pro d'ancienne génération, donc avec encore les contours avec les bandes en haut et en bas, qui était en vente. Donc moi, enfin, on s'est dit que celui-là allait disparaître, donc en effet ils l'ont enlevé du catalogue. Et puis on attendait avec impatience un nouvel iPad mini. Il y a beaucoup de gens qui disaient qu'il disparaîtrait, mais en fait non. Ils ont sorti un nouvel iPad mini, donc le cinquième génération.
Et moi, ce qui m'a surpris dans la sortie, il y a un petit retour de son, je m'entends l'autre bord, je sais pas ce qui... Bon, bref, ce qui m'a surpris, moi, dans la gamme, c'est le retour du iPad mini, c'est pas trop ça qui m'a surpris, je me doutais qu'il allait revenir. Ce que je me doutais pas, par contre, c'est qu'il allait être aussi cher. Je le trouve quand même, dans la gamme de prix, assez dispendieux par rapport au reste, par rapport au form factor, puis surtout qu'il sort pas, tu sais, il sort pas de l'ordinaire en termes du matériel.
Ouais, c'est ça. En fait, il est. Mais parce que tu sais, en fait, celui qui pose problème, c'est pas l'iPad mini. Au final, enfin, c'est l'iPad tout court qui, à mon avis, celui-là va vite partir au profit d'une nouvelle iPad Air. Et donc, ça veut dire qu'on aura le Mac mini. Ça sera. Enfin, moi, j'imagine que le Mac mini, ça sera l'entrée de gamme au niveau du prix. Et on aura après l'iPad Air et après les iPad Pro. Mais on a encore un iPad qui est au milieu là, qui a pas été mis à jour et qui. Ouais, je sais pas trop. Je sais pas trop ce qu'ils vont faire, mais je pense que l'iPad mini va redevenir l'entrée de gamme comme c'était en fait à l'époque où il est sorti. C'était le plus petit, mais il était plus accessible.
Alors, en ordre de classement, on y va avec du plus grand au plus petit, du plus cher au moins cher. Si je me trompe pas, on a iPad Pro. Maintenant, on a iPad Air. Ensuite de ça, on a iPad Mini et on a iPad 2018. C'est à peu près ça la gamme en termes de prix, là.
Ouais, c'est ça. Donc c'est vrai que c'est assez vaste parce que l'iPad tout court, il est à 300. Alors j'ai fait un petit comparatif. Ouais, l'iPad classique, il commence à 359 euros. Alors que c'est vrai que l'iPad mini est à 100 euros de plus, quoi.
En
Mais
termes.
il est plus. Ouais, ben, il a un nouveau processeur, il a tout de nouveau, quoi. Après, l'iPad. Alors, ce qu'il faut dire aussi, c'est que l'iPad Air, donc le nouveau qui est sorti, est plus grand. Son écran est à 10,5 pouces. Et contre un 9,7 pouces, en fait, pour l'iPad classique. Donc, la différence de prix s'explique par là et par le fait, ben, bien sûr, qu'il a processeur plus puissant, plus de stockage, etc., quoi.
Et maintenant, tout le monde est compatible Pencil.
Ouais, avec l'Apple Pencil 1. Première génération. Faut pas trop en demander quand même. Et par contre, le nouvel iPad Air est compatible avec le Smart Keyboard. Donc ça, c'était réservé aux iPad Pro avant.
En fait, j'ai un peu de difficulté à trouver la différence entre iPad Air et le dernier iPad Pro. Il y a quelques subtilités, mais j'ai l'impression que c'est un iPad Pro ancienne génération rebrandé en Air. Bref.
C'est la même taille en plus.
Ouais, c'est ça, exactement. Fait que j'imagine que c'est un rebrandage. Dans les nouveaux produits qui sont arrivés rapidement avant la keynote des services, puis de la télé, puis de la musique, puis des films, tout ça, on a eu le droit aussi à un nouveau iMac.
Ouais, on a eu droit à une mise à jour des iMac. Donc, c'était pas vraiment un nouvel iMac, mais nouveau processeur, pas plus de mémoire vive, mais une mémoire vive plus rapide en termes de cadence. Donc, ça, c'est toujours bon à prendre. Et par contre, ils ont toujours laissé les fameux disques durs interoctets à plateau, là, pas de SSD encore pour l'entrée de gamme. Donc, ça, c'est un choix un peu. Ils ont un peu de mal à l'assumer, mais ils disent que pour la bureautique, ça suffirait. Donc, bon, c'est leur choix, quoi. Faut pas.
Bon,
Voilà.
en même temps, Apple a un système de fichiers où on peut placer, déplacer des fichiers plus rapidement que des systèmes comme PC, mais c'est vrai que au prix où sont maintenant les SSD, ils diminuent de prix en ce moment, c'est incroyable. On est en droit de se demander pourquoi encore des disques à plateau. Bon,
Après, moi, je sais que j'ai des clients qui ont besoin de beaucoup de stockage et pas forcément de vitesse. Donc, genre des gens qui ont beaucoup de vidéos, beaucoup de... Voilà, ils préfèrent, si tu veux, parce que là, en fait, ce qui est compliqué, c'est que l'iMac, donc, il est par défaut avec 1 téraoctet de stockage. Mais tu peux prendre en option, à la place du disque dur à 1 téra, tu peux prendre 256 de SSD, 256 gigaoctets. Sauf que du coup, pour le même prix, ton stockage est divisé par 4. Tu
Ouais.
comprends?
Ah
Même
ouais.
si tu gagnes en rapidité, bah, les gens qui ont besoin de place, ils peuvent pas se payer 1 téraoctet de SSD. Tu vois?
Ouais.
C'est trop cher.
Ouais, effectivement. Alors, c'est destiné à des gens qui ont nécessairement besoin d'espace, comme des créateurs de vidéos, fichiers, des gros fichiers d'images aussi. Des fois, parfois, ça peut être assez gros. Je peux comprendre, mais quand même, les SSD diminuent beaucoup, beaucoup de prix. Nouveau, il y avait aussi dans les produits assez attendus depuis la fin de l'année passée, les nouveaux AirPods 2 qui sont sortis avec évidemment boîtier de recharge sans fil, la capacité d'avoir 10 Siri directement, et là je vous ai tous allumé vos téléphones là, en le disant, la capacité d'avoir Siri directement après les écouteurs et un petit peu plus d'autonomie par rapport à ce produit-là. Toi Audrey, est-ce que tu es en attente de ça? Je sais que toi t'as plus des écouteurs filaires Bluetooth traditionnels ou avec un serre-tête, c'est ça?
Mais ouais, en fait, moi j'ai un casque Bluetooth de chez Marshall que je montre là. Donc les gens qui nous écoutent au podcast, ils vont louper cette magnifique démonstration. Mais en fait, si tu veux, j'avais besoin du Bluetooth pour être plus libre dans mes mouvements. Mais quand tu fais du montage vidéo, le monter en Bluetooth, c'est juste horrible. Enfin, t'as toujours quelques secondes de décalage ou voilà. Donc il fallait que je puisse mettre un câble. Si je veux. Et donc, ce casque-là de chez Marshall, donc c'est le Major 3 Bluetooth, il permet soit d'être en Bluetooth, soit en filaire. Et ça, cette liberté-là, j'en avais besoin pour mes différentes activités. Donc, au final, j'ai pas d'AirPod. J'aimerais bien en essayer. Je sais pas si. En fait, moi, la question que je me pose, c'est est-ce qu'ils sont vraiment plus confortables que les EarPods, là, les câbles qui étaient fournis avec les casques qui étaient fournis avec les casques filaires d'avant, parce que les casques filaires d'iPhone, c'était très douloureux pour les oreilles, quoi.
Alors,
Moi, je les mettais et j'avais vraiment mal aux oreilles, pas à l'intérieur, mais physiquement, enfin. Le son était bon, si tu veux, mais la forme était pas terrible, quoi.
bon, ben, la forme, elle change pas avec des AirPods. Moi, j'ai les AirPods de première génération. La forme change pas, si ce n'est que l'espèce de pile de batterie qui est en le long, en fait, de ton oreille, fait que ça se place, je trouve, un peu mieux parce qu'il y a un peu plus de poids. Il y a comme une espèce de pesée au niveau des écouteurs. Fait que
Ah oui.
ça c'est bien. Par contre, c'est vraiment un produit pour. J'ai eu un débat hein, sur Twitter par rapport à ça. Alors, je suis un peu plus ferré sur comment je vais le dire parce que il y a des aficionados d'AirPods, faut faire attention. C'est un produit ultra pratique, mais c'est pas un produit pour avoir une bonne qualité de son ni une bonne qualité de micro. Le micro là est complètement nul. Ils font très bien le travail pour une discussion au téléphone où on n'a pas besoin de qualité, mais ayant une oreille de podcasteur depuis bien des années, je trouve les micros absolument nuls. On peut pas faire aucun enregistrement audio ou des mémos qui ont une qualité intéressante. Fait que ce côté-là, j'aime moins un peu des AirPods. Au niveau du son, ben, c'est à peu près le même problème. Une autre des problématiques, c'est que c'est pas un, y a pas une cancellation de bruit actif ni passif. De par la forme de l'appareil, de par la technologie qu'il y a là-dedans, on entend toujours les bruits extérieurs, les bruits ambiants. Ce qui fait qu'on a tendance, et puis ça peut créer certains problèmes au niveau de la santé des oreilles, on a tendance à augmenter le volume des
Ah oui.
AirPods. Ce qui fait que c'est pas très très bon au niveau de l'audio. Par contre, Apple n'a jamais vendu ses AirPods en disant que c'était pour les mélomanes. Apple a jamais vendu des AirPods en disant qu'il y a une qualité sonore incroyable au niveau du micro. C'est vraiment un produit qui change, qui bouleverse un secteur dans l'axe praticité du produit, mais pas au niveau du son. Moi, je trouve que c'est assez ordinaire par rapport au son, de par le fait qu'il n'y ait pas de bruit, de
Ah
réduction de
oui,
bruit.
de réducteur de bruit ambiant, c'est ça?
Exact, exact.
De... Oui.
Alors,
Mais je crois que les réducteurs de bruit ambiant, ça oblige à ce que les micros soient en fonctionnement continu. Du coup, je pense que tu perdras en autonomie aussi.
Ouais,
Il y a
c'est
un
ça.
truc comme ça technique qui fait que Apple n'a pas fait ce choix-là, parce que je crois que pour les AirPods 2, il y a beaucoup de gens qui attendaient ça, et ça n'a pas été fait, donc peut-être que la techno n'est pas encore au point où je sais pas.
Ben, pour des bons écouteurs qui font de la réduction de bruit, c'est sûr que, comme tu dis, il y a des écouteurs à l'extérieur qui annulent les bruits pour pas les entendre dans les faits. Effectivement, ça boufferait la batterie de un. De deux, peut-être que ça grossirait les AirPods, serait peut-être beaucoup plus gros, peut-être. Ça, c'est sûr. Il y aura aussi le moyen peut-être de l'avoir au niveau passif, en bloquant carrément le conduit auditif. Ça n'a pas été fait parce que c'est un produit qui a comme vocation d'être beaucoup plus pratique. Et ben, dans sa version 2, il y a encore beaucoup plus dans la mesure où vous pouvez le déposer, le boîtier, n'importe où. Et là, il est vraiment sans fil, c'est-à-dire qu'il se recharge avec ces espèces de palettes qu'on peut acheter maintenant sur le marché pour de la recharge sans fil, par induction. Fait que ce niveau de praticité-là a encore augmenté, puis l'autonomie aussi au niveau des oreilles a augmenté. Par contre, le prix y est aussi, hein.
Ouais, le petit boîtier à 80, à, c'est combien? 89 euros là? Il fait un peu mal quoi. Ouais. Mais après, ça monte à 229 euros, je crois. Les
Ouais.
AirPods avec le nouveau boîtier.
En fait, la façon qu'Apple a commencé à les commercialiser, c'est de vendre simplement le boîtier. Vous pouvez acheter simplement le boîtier sans les écouteurs. En fait, vous pouvez garder vos AirPods version 1, mais changer simplement le boîtier. Sous cet angle-là, je trouve qu'Apple a bien joué parce que il y en a plusieurs qui veulent peut-être pas mettre le prix, mais veulent avoir la recharge par induction. Par contre, si tu compares le prix recharge-induction sans recharge-induction, c'est une cinquantaine d'euros de différence. Ça les vaut. C'est pas si mal. Toujours dans le sans fil, Apple a cancellé les AirPower. Ça vient de sortir sur 9 to 5 Mac. Apple dit qu'il n'est pas capable d'atteindre avec des AirPower le standard de qualité. Alors le AirPower, c'était quoi? C'était ce qu'ils nous avaient présenté il y a peut-être 2 ans maintenant, de la recharge sans fil, mais à peu près sur un espèce de pavé, mais on pouvait disposer à peu près n'importe où. On sait que quand on a une recharge sans fil, j'en monte un présentement à l'écran, on peut disposer son téléphone, mais c'est sûr que c'est mieux que ce soit placé au centre, hein. Plus vous le disposez bien, mieux c'est pour la recharge.
Oui, parce que ça fonctionne avec des anneaux.
Ouais.
C'est de l'induction en fait. Donc c'est vraiment comme les plaques à induction. Enfin, c'est un peu la même techno. Donc c'est en cercle. Ça fait comme les trucs anti-moustiques là qu'on brûle l'été, tu vois.
Ouais.
Donc en fait, donc forcément, eux, ils voulaient un socle d'accueil pour recharger plusieurs appareils sans fil. Donc leur idée, c'était l'iPhone, l'Apple Watch et les AirPods. Et ils voulaient qu'on puisse poser comme ça tous nos trois appareils sans trop devoir les placer au millimètre. Et en gros, c'est cette techno-là ça produisait trop d'énergie, apparemment, d'après ce que j'ai lu. Donc, c'était pas, ça répondait pas à ce qu'ils voulaient et puis aux critères de qualité qu'ils voulaient. Donc, il est annulé, mais moi, je pense qu'un jour, ils reviendront avec leur propre chargeur.
Padgé 68 dans la chatroom nous dit que la techno de recharge sans fil est très complexe, surtout pour recharger plusieurs appareils en même temps. Je sais pas ce que
C'est
ça
ça,
prend comme technologie, mais l'idée du AirPower au début, c'était de pouvoir mettre sa montre, son téléphone, ses AirPods et tout brancher, en fait tout recharger en même temps. Visiblement, ils ont pas réussi à trouver une techno qui arrive au standard d'Apple et on pourra pas avoir ça tout de suite.
ouais.
Baumgartner Philippe dit les AirPower chauffent trop et ne peut pas prendre et Apple ne veut pas prendre de
Ouais,
chance.
c'est ça. Ouais, c'est ce qu'on disait, ouais, c'est ça. Bon, affaire à suivre. Enfin, il est annulé pour l'instant, mais c'est quand même hyper rare qu'il présente un produit et qu'il annule après. Je ne sais pas ce qu'il y a eu, mais autant des prototypes qui ne sont jamais sortis, il y en a eu, mais des produits comme ça qu'ils ont présentés, ouais, j'ai pas souvenir.
Des prototypes qu'ils auraient présentés, qu'ils n'ont pas sortis en vrai, il y en a eu quelques-uns?
Oui, il y a. Tu connais le Journal du Lapin? C'est un site vraiment très, pas, pas, très technique sur Apple que j'aime beaucoup. Et souvent, ils retrouvent des prototypes ou des choses comme ça qui. Après, ça peut être par exemple, tu sais, à l'époque des iBooks, on les appelait les iBooks pas lourdes, c'était les iBooks arrondis, là, tout colorés.
Ok,
les
ouais.
Portables. Et ben, en fait, apparemment, il y a eu des prototypes comme ça qui sont sortis. Enfin, des versions, si tu veux, légèrement différentes qui n'ont pas été validées. Donc, c'est des prototypes qui ont amené forcément au produit final, mais qui ont quand même été modifiés. Donc, oui, il y en a eu des. Je pense qu'il y en a eu. Il y en a eu pas mal. Forcément.
C'était des MacBooks pas lourds.
C'était des iBooks, ça s'appelait.
iBooks, ouais. Qui étaient très légers parce qu'ils n'étaient pas lourds.
Alors on disait pas lourde parce que ça faisait vraiment comme le coquillage, si tu veux, ça s'ouvrait. Ils étaient tout arrondis. Franchement, tu n'as pas connu ça?
Non.
Ah, ils étaient super beaux. On bavait tous devant, écran 1024 pixels sur 768. C'était formidable.
Alors là, on a fait le tour un peu des sorties d'appareils et des annonces en fait de d'appareils qui sortiront pas. J'ai de souvenir rarement vu Apple sortir autant de nouveautés hardware sans vraiment faire un événement par rapport à ça. Est-ce qu'on est à la fin d'un cycle où finalement à chaque fois qu'on sort un appareil, il est juste mieux, plus puissant, mais qu'il n'y a pas vraiment tellement de différences significatives qu'on n'a plus besoin nécessairement de les mettre dans des keynotes? Audrey, qu'est-ce que tu en penses, toi, de cette façon de faire?
Ouais, j'ai déjà eu cette discussion. C'est vrai que c'est. Moi, je pense que même pour les iPhones, au niveau matériel, on est arrivé à un niveau où la techno s'essouffle un peu. En gros, les processeurs, on est un peu arrivé. Tant qu'on est chez Intel, du moins, pour les Mac, du moins, je pense qu'on est un peu bloqué. Ça évolue légèrement d'année en année, mais on n'est pas. Je pense que. Que les Mac, à moins qu'il y ait un jour un nouveau design, par exemple pour les iMac, ce qui serait bien, un petit peu de neuf, mais je pense qu'au niveau hardware, ouais, on est un peu à un stade en fait où on est un peu bloqué. Donc là, c'est peut-être aussi pour ça qu'Apple mise sur les services et va essayer de générer des revenus de différentes façons.
Ouais, et puis en même temps, on va se diversifier dans la gamme et puis. D'être victime toujours de la moquerie, toujours awesome, toujours amazing, toujours pour des produits finalement qui sont juste une évolution. Je comprends aussi peut-être le move par rapport à ça au niveau d'Apple. Alors Audrey, plusieurs services ont été annoncés pendant cet événement-là, qui n'est pas un keynote. Plusieurs services au niveau financier, au niveau des nouvelles, au niveau des jeux, des films. Ça foisonnait de tous bords, de tous côtés. Toi, comment, premier avis en fait sur comment t'as perçu cet événement-là? Est-ce que tu l'as regardé au complet?
Alors oui, je l'ai regardé au complet. J'ai trouvé ça très long.
Ouais.
2h30. J'étais pas là. En fait, je travaillais donc je l'ai pas vu en live, mais je l'ai regardé le lendemain. Et en fait, j'étais. La première heure, ça allait, et après, c'est vrai que c'était long, donc 2h30. Et après, ils ont présenté plein de choses. Ça a été vraiment le show, avec des stars, il y a plein d'acteurs, il y a eu Steven Spielberg, ça a été quand même assez énorme. Donc, pour présenter tous ces services, franchement, je préfère les keynotes matérielles, ça c'est clair. Et puis, on va en parler après, mais j'attendais d'autres services. À croire qu'il n'y en a pas eu assez, mais j'attendais d'autres évolutions sur des services existants, mais c'était un peu long. Et toi, t'en as pensé quoi?
Alors, très américano-centré, ça me dérange pas trop, parce qu'au Canada, c'est quand même, on est quand même pas trop loin de cette culture-là, alors j'ai pas détesté en soi. Le premier service qu'ils ont annoncé, c'est un service qu'on connaissait très bien nous autres ici au Canada, s'appelle Apple News Plus, qui est en fait simplement le produit Texture qui a été racheté par Apple. Ce produit-là était, dans le fond, des abonnements à certaines revues. Alors nous, on a la chance d'en avoir déjà, de pouvoir déjà l'utiliser ici au Canada, et des revues françaises, 300 revues françaises, québécoises, canadiennes, américaines. Vraiment chouette. Tout ça dans un très bel enrobage dans l'application Apple News qui fait son apparition en français ici au Québec. Vous l'avez pas encore. Il y a présentement juste le widget que vous pouvez avoir d'Apple News. Vous goûtez pas du tout à la à la sélection faite par Apple. Vraiment, vraiment, je vais m'avancer pour toi, Audrey, parce que tu ne l'as pas, mais vous avez directement le widget, mais ici, on a le widget maintenant et l'application directement. Vraiment bien fait. Alors, pour la petite histoire, qu'est-ce que c'est Apple News? Apple News, c'est juste l'agrégation d'informations de tout genre, avec une espèce d'intelligence artificielle qui, là, il rebrande beaucoup Siri. On utilise beaucoup Siri pour dire que c'est l'intelligence artificielle qui va, dans le fond, aller chercher l'information qui vous plaît. Alors ça, ils utilisent ça allègrement dans l'application Apple News. Dans l'application Apple News, vous pouvez aussi configurer des thématiques que vous aimez. Alors, simplement le sport, la politique, ou même simplement faire des recherches. Il y a plusieurs informations et tout ça est gratuit. C'est vraiment de l'agrégation d'informations gratuites dans une application. Le look est vraiment, vraiment, vraiment bien fait. Les polices, les caractères sont très bien choisis. Et il y a une petite fonctionnalité qui s'appelle Apple News Plus, qui est dans le fond la possibilité de s'abonner à des magazines, comme des magazines virtuels, ou mais qui existent pour vrai. Alors, il y a Wired, ouais, c'est ça, des magazines numériques. Et à travers une application, on a des magazines existants et de l'agrégation d'informations qui provient de sites. Alors, c'est assez chouette. C'est bien fait. Présentement, je suis sur mon abonnement de 1 mois. Apple News est gratuit. Apple News Plus, lui, va coûter $10 par mois. Et l'avantage de ça, c'est que tous ceux qui sont dans le partage familial pourront bénéficier de l'abonnement. C'est vraiment chouette. Et j'ai pas encore réussi à prendre l'habitude d'aller voir mes magazines en ligne, mais j'ai quand même bien pris l'habitude d'aller voir mes informations dans Apple News. Je peux pas te demander tes commentaires par rapport à l'application, Audrey, mais est-ce que tu as hâte d'avoir ce service-là chez toi en France? Je n'entends plus Audrey.
Ben oui, forcément, si je coupe mon micro.
Ah, c'était pour ça!
C'est ça, j'ai une petite com' de tout, donc... bref, donc... ouais,
alors Audrey, Apple News... as-tu hâte d'avoir ce service-là en France?
Ouais, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. On a le kiosque en France qui existe déjà, ouais. Avec plein de magazines numériques. Mais on n'a pas de... Moi, j'ai hâte de voir aussi la version gratuite déjà d'Apple News, l'app tout simplement classique, puisque nous, on a juste ouais. un widget... sur l'iPhone où Apple sélectionne des actus. Donc parfois on a quasiment 4 fois la même actu traitée par différents journaux, mais comme c'est l'actu du moment, ben on a 4 fois la même chose. Ouais, j'ai hâte de voir ça. Et je crois que le tarif c'est combien alors chez toi au Canada?
Alors Apple News c'est gratuit, Apple News Plus c'est $10 par mois. En fait c'est 13 $ canadiens par mois, mais ça comprend les 6 personnes qui sont dans ton partage familial. Ça veut dire que tous ceux qui sont dans le partage familial ont accès à ces revues-là sans aucun souci.
Ouais, ça c'est bien.
Et c'est une différence, hein, parce que Apple Music, faut payer un surplus pour que la famille puisse l'avoir. Là, directement, vous l'avez sans payer le surplus. Je trouve ça judicieux. Bien content même.
Ouais. Après, je sais pas comment les magazines vont faire pour être rentables, parce que à moins que Apple vende vraiment beaucoup d'abonnements payants, je sais pas. Bon, je crois qu'il y a un grand magazine américain qui a pas rejoint le. C'est lequel? Le Times?
C'est une bonne question.
Le New Yorker? Ah, je sais plus.
C'est ça. Il y en a plusieurs. New Yorker, je pense qu'il y est. Et c'est drôle parce que tu vois, j'ai pas encore pris. Je suis un gars qui aime beaucoup l'actualité et j'ai pas encore pris l'habitude dans l'application Apple News d'aller sur Apple News Plus. Alors, je sais pas si la stratégie est nécessairement bonne d'avoir un produit plus à l'intérieur d'un produit normal. C'est là où je doute un peu de la stratégie.
Ouais, parce qu'en fait, ce qu'il faut rappeler, c'est que dans tous les services qu'ils ont proposés, il y a toujours l'application qui s'appelle Apple News, par exemple, et le service payant qui s'appelle Apple News Plus. Ils ont mis des plus au bout de tous leurs produits quasiment, comme par exemple l'Apple TV Plus. Ça va être un peu le Netflix d'Apple. Donc on va en parler, mais en gros ils ont mis des plus au bout de tous les services pour dire que c'est la partie payante en fait.
Donc on a toujours une partie gratuite.
Ouais.
Soit l'app est, en elle-même est gratuite, soit on a une partie du contenu qui est gratuite, mais pour avoir tout le contenu, il faudra s'abonner à chaque service. Donc ouais, là exact. Aussi...
Alors, c'est particulier. Je suis sur mon mois d'abonnement gratuit pour pouvoir en profiter d'Apple News+. Mais c'est sûr que Apple News normal est fait pour un écran style iPad ou téléphone. Il est vraiment adapté pour ça. Un magazine l'est pas fait pour ça, ou pas nécessairement fait pour ça. C'est très linéaire, hein. C'est, on tourne une page et ainsi de suite. J'irais pas jusqu'à dire que c'est des PDF qui nous ont foutu dans l'application, mais quand même, c'est pas loin de ça, et c'est pas vraiment, ça prend pas l'essence même d'un iPad ou d'un téléphone pour naviguer dedans. Il y a des magazines qui ont été faits et revus un peu au niveau visuel, mais la majorité des francophones que j'ai, en fait, tous les francophones n'en bénéficient pas de cette expérience utilisateur par Apple. C'est vraiment le magazine en format PDF, grosso modo.
Ouais, donc en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on dirige un magazine ou quand on travaille dans un magazine, on a différents formats possibles pour le numérique qui sont c'est la jungle en fait, il y a plein de formats compliqués. C'est vraiment pas simple à mettre en place puisque suivant l'appareil sur lequel la personne va lire son magazine, il y aura des différences. Une fois on peut tourner la page en la faisant glisser comme dans un livre, d'autres fois ça prend pas en compte. Enfin, c'est très compliqué techniquement, c'est vraiment pas encore au point. Donc je pense qu'il y a beaucoup de magazines qui se disent bon ben on met au format PDF pour être sûr d'être lisible sur tous les appareils. C'est ça le problème. Donc moi j'aimerais bien qu'Apple nous sorte une appli sur Mac pour créer du contenu comme ça et qu'on soit sûr que ce soit bien diffusé. Peut-être que ça viendra, je sais pas.
Le problème je pense aussi c'est que on veut encore et encore un format papier traditionnel. Alors je comprends hein, pour les boîtes d'édition de magazines de continuer à focaliser là-dedans, mais aussi on veut toucher à un public numérique et le format est pas adapté du tout. Alors je peux comprendre qu'on aime le contenu d'un journaliste, d'un auteur, mais faut quand même essayer de bénéficier de la plateforme. Et puis c'est là où je trouve que Apple News Plus, la plateforme est pas c'est bien hein, c'est fait par Apple, mais ça reste que c'est intégré, l'abonnement est simple, la souscription est simple, tout est bien, on a un prix groupé pour la famille, mais ça reste que c'est un format pour moi je trouve qui date de qui est dépassé et qui est pas adapté par rapport à la plateforme. Et quand je te dis, moi, Audrey, que je préfère et que j'ai pas encore pris l'habitude, et pourtant, je suis abonné, là, je suis un abonné payant, mais pas encore, tu sais, dans la souscription 30 jours gratuit, là, j'ai pas pris l'habitude d'aller voir mes magazines. Et ma copine, c'est la même chose. On va dans Apple News, aucun souci, mais aller dans l'onglet Apple News Plus, c'est difficile parce que c'est pas par sujet vraiment, c'est par magazine, puis c'est pas comme ça qu'on recherche l'information maintenant. Alors c'est pour le moment, je suis encore en train de réfléchir à savoir si je vais garder cet abonnement-là parce que je veux voir comment ma mère réagit par rapport au magazine parce qu'elle est dans mon groupe familial. Si elle aime ça, bon, on va peut-être le garder. On va peut-être faire l'effort d'essayer d'y aller un petit peu plus souvent, mais j'arrive pas à prendre l'habitude. Et c'est tout le temps le bordel quand on essaie de souscrire à un magazine papier en ligne et c'est un peu un effet de bord encore là dans l'affichage de ces magazines-là directement dans l'application.
Ouais. Mais ça m'étonne pas que ce soit compliqué autant pour les gens qui créent les magazines que pour ceux qui les lisent, quoi. C'est pas encore au point. En fait, il y a un moment, je pense qu'il va vraiment falloir se dire on passe au tout numérique et puis on publie des articles et les gens chercheront... avec une par exemple des articles la sélection du jour ou c'est vrai que puis en fait ce qui est très bizarre dans les magazines numériques c'est qu'autant un livre tu l'écris, tu peux le mettre à jour s'il y a un souci ou si tu veux ajouter des informations, mais un magazine est censé traiter quand même d'actualité. C'est des sujets c'est un magazine qui sort toutes les semaines ou tous les mois. C'est quand même quelque chose de frais quoi et donc se dire encore qu'on va remplir 100 pages de choses qui dans un mois seront un peu périmées ou qui peuvent pas être mises à jour, puisqu'en général souvent ils transposent la version papier en version numérique, mais ils vont pas forcément l'éditer ou tu vois, ouais. c'est vraiment très 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 opposé en fait comme vision.
Ouais,
et puis on a l'impression d'être face à deux mondes totalement différents et c'est peut-être pour ça que ça ne s'adapte pas aussi bien.
Et puis, regarde, je vais faire une petite histoire, là, une petite tranche de vie. J'étais abonné à un journal qui a un axe numérique super intéressant au Québec, s'appelle Le Devoir, qui a une application qui est vraiment pensée au tout numérique, qui est vraiment adaptée à un format tablette. Il est vraiment bien fait pour ça. Mais je sais pas pourquoi. On peut s'abonner simplement, on peut payer, il y a des... Mais pour se désabonner, c'est impossible. Faut appeler au téléphone. Alors tu te dis, merde, ils ont pas encore appris à que le tout numérique, c'est toute l'expérience numérique au complet. Et puis, c'est pas juste Le Devoir ici au Québec. Je me suis abonné dernièrement à The Wired, qui est un magazine américain très connu, mythique. Et pour se désabonner, rebelote, il faut absolument passer par quelqu'un physiquement pour lui parler, parce que c'est sinon on peut souscrire facilement, ben, facilement entre guillemets, en ligne, mais pour se désabonner, l'expérience, ben, il y a une coupure. Alors, c'est là que tu vois que ces magazines-là et ces journaux-là ont fait des adaptations, mais on est quand même, bordel, en 2019, et l'expérience utilisateur, elle est pas complète. Il y a tout le temps quelque chose qui accroche, parce qu'ils ont une façon de penser qui est pas adaptée aux nouveaux médias, je trouve.
Ouais. Et écoute, on va voir, il sera disponible en... Mais non, en France, on n'a même pas de date, en plus. Ils nous ont dit disponible, donc, aux USA et au Canada tout de suite, en Australie et au Royaume-Uni cet automne. Mmh. Mais en France, franchement, peut-être qu'ils vont nous mettre juste l'appli Apple News. Mais la version plus payante, je sais pas du tout comment ils vont gérer ça en France avec tous les centres de presse et tout. J'aimerais pas être Apple sur ce coup-là, ça va être compliqué.
Mais par contre, je rappelle que l'application Apple News gratuite, au niveau de l'interface, elle est vraiment chouette. Elle est tellement chouette que j'ai même supprimé Flipboard, qui était mon espèce de journal quotidien que j'écoutais avec mes nouvelles.
Ouais, j'ai vu ça, que t'as supprimé ça.
J'en ai plus besoin. Je suis vraiment bien dans l'écosystème d'Apple, et Apple News fait très très bien le travail. Et en plus de ça, ben, il y a des espèces d'abonnements à des infolettes directement dans l'application. Tu vois, ça a l'air stupide, mais pas vrai. C'est pas anodin. Dans Apple News, on peut souscrire à recevoir des emails le matin avec les news que Siri a décidé, ou en tout cas pense qu'ils sont bonnes pour toi. Et après ça, ça te redémarre dans l'application. Je trouve que la séquence est logique. C'est très bien fait.
Ouais, ben j'ai hâte de tester ça.
Alors, après Apple News, autre produit que nous n'avons pas au Canada, une carte de crédit. Une carte de crédit disponible seulement aux US dès cet été. Une carte de crédit platine, mais vraiment platine physiquement. Hein. Elle est en métal presque. Disponible juste pour les Américains. Alors, des rabais, les gens qui vont l'avoir vont pouvoir accumuler certains pourcentages de rabais pour le rachat de produits. Lorsqu'ils dépensent, ben automatiquement, il y a un rabais qui s'applique. Toutes sortes d'avantages, pas de frais, de bas taux d'intérêt lorsqu'on utilise la carte de crédit. J'ai été très surpris qu'Apple aille directement faire une carte de crédit physique. Je pense que dans Wallet, ils avaient moyen de garder ça directement tout numérique. Je suis très surpris qu'il aille dans le monde physique. Toi, ça t'a pas sur... Est-ce que ça t'intéresse d'abord? Et est-ce que s'il y avait ça en France, ce serait genre de client pour ce type de produit-là et financier?
Ben, écoute, déjà, ça m'a surpris qu'Apple devienne une banque. On parle quand même d'une société d'informatique, mais... Ouais. Bon, pourquoi pas. Après, j'ai cru comprendre que leur carte bancaire n'était pas sans contact. Donc, ça veut bien dire qu'il y aura une version dématérialisée, en gros, dans Wallet, pour faire tes paiements avec ton iPhone.
Okay.
Tu ne pourras pas faire de paiement sans contact avec. Donc, pour quelle utilisation elle pourrait... pour retirer du liquide, quoi. Je vois pas d'autres raisons d'avoir une carte physique, en fait, même aujourd'hui, même avec les autres cartes qu'on utilise. Écoute, j'essayerai peut-être bien. Je sais pas du tout comment ils vont faire ça en France. Toute façon, en fait, c'est un peu comme une carte, c'est comme un service comme PayPal. En gros, c'est un endroit où on va mettre de l'argent et on le dépense où on veut. Donc, c'est vrai que j'ai vu que sur les produits Apple, il y a 2% de réduction. Et si on achète avec, on a 3, enfin, ça c'est aux États-Unis.
Ouais.
En France, je sais pas du tout comment ça va se passer, mais je sais qu'aux États-Unis, donc ils auront 2 ou 3% de réduction sur les produits Apple déjà. Donc ça peut être intéressant pour les grosses sociétés, par exemple, qui commandent beaucoup de produits, ou pour... à moins que ce soit réservé aux particuliers. Enfin, en fait, c'est un peu flou, on sait pas trop les conditions encore. Et il y a ce qu'ils appellent le cashback. Alors ça, nous, on connaît pas du tout en France. C'est quand tu achètes dans une enseigne, tu as un retour de... tu gagnes de l'argent, en fait, en dépensant.
Alors, je vais te raconter la petite histoire de l'Amérique du Nord qui est basée sur la consommation. On consomme des choses qu'on n'a pas besoin avec de l'argent qu'on n'a pas. Et l'argent qu'on n'a pas, c'est des cartes de crédit. Ils se battent tous, les compagnies de cartes de crédit, pour nous avoir comme clients. Parce que tu comprendras que au taux d'intérêt qu'ils demandent, c'est du 20%, 25%, 30%. Des fois, c'est quasiment limite usuraire. Tu comprends qu'ils essayent d'avoir des formules attractives. Les Américains, les Nord-Américains sont surendettés. Beaucoup ont une, deux, trois cartes de crédit qu'ils ne payent pas à chaque fin de mois. Ils payent le minimum requis et de mois en mois, ils accumulent des dettes. Alors, ça fait un potentiel pour les compagnies financières incroyable. C'est-à-dire que c'est pas bon pour l'économie pour des personnes, là. Mais c'est bon pour ces compagnies-là parce qu'ils accumulent des taux d'intérêt incroyables. Et pour se distinguer maintenant, les cartes de crédit, c'est comme un produit dans le sens où je vais prendre telle carte de crédit, elle me donne de meilleurs rabais, elle me donne d'autres avantages. Moi, j'ai des cartes de crédit qui automatiquement me donnent des garanties prolongées sur les produits. J'ai des cartes de crédit qui donnent des rabais, des cashbacks, des retours d'argent dans certains magasins. Ma conjointe a une carte de crédit pour laquelle elle accumule de l'argent à chaque fois qu'elle dépense puis qu'elle rembourse et qu'elle peut dépenser après ça dans d'autres boutiques en ligne. Alors, je comprends le mouvement de faire ça pour au niveau d'aller chercher de l'argent. Je pense qu'ils ont fait le calcul à Apple que ils ont une certaine quantité de clients qui doivent s'endetter ou qui ont une facilité à dépenser qui fait que ça va pouvoir être relativement rentable pour eux. Par contre, je me pose légèrement la question suivante. Apple, depuis 4-5 ans, je pense, depuis l'iPhone 5S, il me semble, le paiement sans contact, c'est le 6 ou c'est le 5S qui avait ça?
Le 6.
Le 6, tu vois.
La puce NFC, c'était c'était pas le 5S, ça c'est sûr. Ça doit être le 6 ou le 6S, ouais.
Bon, à partir de ces téléphones-là, qui ont à peu près 4-5 ans, Apple a négocié avec toutes les banques pour que les banques fassent un partenariat avec Apple, pour que les banques puissent mettre leur carte de crédit là-dedans, leur carte bleue et ainsi de suite, dans le système d'Apple. Apple, à chaque transaction, se prend une cote, c'est des deals qu'ils ont avec les banques. Et là, d'un seul coup, salut les banques, on fait affaire ensemble depuis 4 ans, on partage un modèle d'affaires, mais salut, on va tout prendre maintenant avec notre carte de crédit, puis on va complètement bypasser votre système. Ça va être des bonnes négociations qu'ils vont avoir à faire,
Ouais, et puis c'est surtout qu'ils ont mis en avant qu'il n'y aurait pas de frais bancaires, par exemple.
Oui.
Donc ça, c'est ce qui fait vivre les banques, enfin, hormis le fait qu'ils travaillent avec notre argent, mais en plus du fait qu'ils travaillent avec notre argent, et Apple fera pareil, de toute façon, si chacun met 1 000 $ sur sa carte Apple, forcément qu'Apple va travailler avec ça, mais ils ont bien insisté sur qu'il n'y aurait pas de frais. L'application, il y aura une application dédiée où t'as des graphiques et tout, enfin, ça a l'air vraiment bien fait pour gérer ton budget. Je pense qu'ils vont mettre une grosse claque aux banques, en fait. Je pense qu'ils vont vraiment dire aux banques, voilà, c'est ça que vous auriez dû faire depuis longtemps.
Ouais, en fait, en Europe, vous avez N26, je pense, comme banque numérique, tout numérique, qui pourrait être comparée, je pense.
Ah, je connais pas.
Il y a des systèmes de banque comme ça, tout numérique, pour lequel il n'y a pas de frais. Par contre, il n'y a pas de comptoir, il n'y a pas de bureau où aller te plaindre ou voir une personne en réel.
Ah oui, il y a pas mal d'opérateurs bizarres. Tu vois, Orange, par exemple, qui est l'opérateur téléphonique historique, qui a lancé Orange Bank. Donc en fait, tout le monde se met à devenir une banque, en fait, même les opérateurs téléphoniques. Et donc forcément, comme t'as pas de guichet, de bâtiment, il y a beaucoup moins de frais, ça c'est sûr. Mais par contre, c'est pas, si tu veux, le problème de ces banques virtuelles, on va dire, c'est que c'est pas eux qui vont te prêter de l'argent pour acheter une maison. On est toujours attaché à la banque traditionnelle parce qu'il y a que eux qui vont nous, parce que nous on fait des emprunts sur très longtemps, tu vois, pour nos maisons. Donc on se rattache forcément à la banque qui va nous prêter quand on voudra acheter un logement. Et je sais pas, peut-être que Peut-être que les jeunes plutôt vont vers ce genre de banque. Après, une fois que t'es propriétaire, c'est compliqué en fait de se dire, ben, je dématérialise tout et puis je dis ciao à ma banque. Parce que là, quand ta banque, ouais, je finis juste là-dessus. Ouais. Quand tu fais un prêt bancaire, ils te demandent que tes salaires, par exemple, soient versés chez eux.
Donc, c'est comme ça que ça fonctionne en Europe. Okay.
Ouais, c'est un peu, c'est ça le deal, quoi.
En Amérique du Nord, il y a une grosse tendance au niveau financier, c'est les milléniaux qui ne veulent pas être propriétaires. Alors, ça pose toutes sortes de problèmes à un modèle qui a été basé longtemps sur ça. Ça offre de nouvelles possibilités à des nouveaux joueurs, exemple des banques tout numériques comme ça, qui n'ont pas besoin de faire des gros prêts, qui ont juste besoin d'avoir des comptes en banque, un carnet de chèques ou des choses comme ça. Il y a aussi des nouvelles réalités au niveau des assurances. Ben, étant donné que les milléniaux veulent pas être propriétaires et veulent pas acheter d'auto, de véhicules, ben, il y a des compagnies d'assurance qui vont essayer de trouver d'autres façons de se financer. Alors, on a typiquement maintenant des compagnies d'assurance qui offrent des assurances pour iPhone, des assurances pour télé, des assurances pour toutes sortes de produits que les milléniaux, eux, consomment, de manière incroyablement plus vaste que les autres générations avant eux autres. Alors, il y a un changement qui se fait au niveau du monde financier de par les générations, et je suis pas mal sûr que ça va fonctionner aux États-Unis. Malgré tout ce qu'on dit, par contre, ça me fait quand même un peu de peine de parler d'une carte de crédit pour dépenser. C'est pas un produit, c'est pas un service en tant que tel, c'est pour dépenser. C'est indirectement, ça veut dire que t'as pas l'argent physiquement pour l'acheter.
Oui. Mais ouais, mais je sais pas. Enfin, j'ai été très surprise par cette annonce, moi, de la part d'Apple. Je sais pas du tout. Est-ce que c'est juste un service en plus, ou est-ce que ça va vraiment changer les choses? Je sais pas.
Alors, pas de code CVV en arrière, pas de petit crypto code en arrière de la carte de crédit, pas de carte de crédit sans contact. C'est un peu normal aux États-Unis. La carte de crédit sans contact ne gagne pas en popularité. C'est un pays très conservateur par rapport aux cartes de crédit, je pense. Et il y a juste le nom. En fait, il y a le logo de la pomme et votre nom sur la carte de crédit. Et c'est tout. Pour le reste, ben tout ce que vous avez à faire sans contact, vous prendrez votre téléphone. Mais pour le reste, vous l'utiliserez dans des magasins traditionnels. Et sans avoir de NIP, sans avoir de mot de passe unique. Ça faisait le tour un peu sur la carte de crédit. C'est une nouveauté, mais c'est pas vraiment quelque chose qui, en tout cas, pour moi, m'intéresse beaucoup. Par contre, ce qui m'intéresse, c'est le produit suivant, le service suivant, c'est Apple Arcade. Pas de tarif. On sait pas encore vraiment quel va être le produit, mais j'aime beaucoup l'idée. Est-ce que tu joues beaucoup sur ton téléphone mobile ou sur ta tablette, sur ton Apple Télé, toi, Audrey?
Alors, bah écoute, jusqu'à présent, je joue à des petits jeux. Clairement, sur mon iPhone, c'est quand j'ai 10 minutes à perdre, je vais faire une partie de. Mais je joue pas autant, parce que j'ai une Nintendo Switch, donc je joue beaucoup plus sur la Switch. Donc, j'ai pas pris l'habitude vraiment de jouer sur le téléphone comme je vois mes neveux et nièces jouer des heures et des heures sur leur téléphone. Par contre, Apple Arcade, donc le nouveau service là de. Qui en gros, je vais décrire rapidement ce que c'est, qui vous permet d'accéder à une centaine de jeux exclusifs pour un abonnement mensuel, hein, toujours, donc on n'a pas de tarif en effet. Mais en gros, ça m'a vachement intéressé parce que déjà, c'est compris dans le partage familial. Donc je me suis dit, c'est vraiment bien pour une famille où il y a 2-3 enfants qui jouent. Il n'y a pas d'achat, les achats intégrés sont. Enfin, il n'y en a pas en fait. Tout est compris dans le forfait mensuel. Tu me dis hein, si je me trompe.
Ouais, exact.
Mais c'est ce que j'avais retenu. Et disponible cet automne. Donc, est-ce que c'est pour que les USA ou pour tous? Je sais plus. J'ai marqué, mais je.
Ah, j'ai malheureusement pas l'information. Par contre, ce qui me plaît beaucoup. Alors, je vais te raconter 2-3 histoires par rapport à ça. Mon fils a des fois prend nos tablettes et des fois s'installe des jeux et des fois, ben, s'achète des affaires sans notre consentement. Alors, on a mis les protections, hein. Ça existe directement, les bonnes protections qui vont bien, mais quand on y a pas pensé à l'avance, ben, ça se peut que votre enfant, ben, fasse des achats contre votre gré. Alors, Apple Arcade, c'est justement pour une partie du service, ça va être pour faciliter, dans le fond, le fait que votre enfant puisse jouer en toute sécurité, c'est-à-dire que au niveau financier, vous avez un abonnement, puis il va avoir toujours les dernières mises à jour avec les add-ons qui vont bien, avec toutes les choses qui vont bien dans les jeux. Vous aurez pas de surprise, ça va être un paiement mensuel récurrent. L'autre affaire qui est intéressante, c'est que ben la promesse, c'est d'avoir des jeux de qualité, des jeux qui respectent certains standards d'Apple. Alors évidemment, pas trop de sexe, pas trop de violence, hein, quelque chose d'assez vanille comme on est habitué chez Apple, mais en même temps, c'est un peu la force du produit. Moi, je suis vraiment impatient de voir ça, d'autant plus que ça risque d'arriver effectivement sur Apple TV, qui est pour moi ma seule et unique console de jeu. J'ai évidemment les petites manettes Bluetooth qui vont bien et j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner parce que là, ça offre une autre dimension au jeu. J'ai toujours de la difficulté sur le Apple Store, sur l'App Store, de trouver des jeux qui sont à paiement unique, qui n'ont pas d'autres paiements récurrents, qui n'ont pas des achats in-app. C'est, si tu vas voir les listings présentement, c'est très difficile de trouver un bon jeu que tu payes une fois et qu'après ça, tu n'as pas besoin de repayer d'autres trucs. Tu sais que tu n'as pas d'aider.
Oui.
Et puis, je vais te raconter une autre anecdote. Mon beau-frère me présente Boom Beach une fois pour jouer à ça. C'est un jeu Tower Defense. Là. Ouais. On a plein de pubs. Hein. Puis là, je joue. Je commence à me prêter au jeu là-dedans. Puis je trouve ça bien. Je trouve ça intéressant. Puis là, je fais « Oh! » Bon, ben, crème, je pourrais avoir pour 10 $ de plus, avoir telle affaire, et ainsi de suite, et ainsi de suite. En une journée, j'avais dépensé 100 $ pour aller un peu plus loin dans le jeu.
Oh là là.
Alors, je suis vraiment pas discipliné pour plein de trucs. Et tu vois, le Apple Arcade, pour moi, ce serait le paiement d'un Boom Beach pour une année, je pense.
Ouais, donc là, en fait, j'ai trouvé l'info. Donc, c'est il sera lancé cet automne dans 150 pays. Donc je pense que toi comme moi, on y aura accès. Par contre, oui, le tarif reste... Je pense que c'est encore en négociation parce qu'ils ont regroupé des gros studios de développement. Et ils disent que c'est aussi un... qu'Apple va soutenir le développement vidéoludique. Donc c'est pas juste payer des gens pour développer, c'est... Il y aura aussi une part d'investissement de la part d'Apple. Donc c'est intéressant en fait pour faire progresser ce secteur, quoi.
Oui, en effet. Et
on y reviendra de toute façon. Cet automne, si ça se trouve, on va zapper un épisode parce qu'on va être sur nos jeux, là.
En fait, on n'aura plus le temps de vivre, on va jouer. Alors, le gros morceau, ça a été annoncé. Showtime, c'était le nom du titre sur les carnets d'invitation pour cet événement-là. Showtime, ça faisait effectivement référence à la télévision, au format vidéo d'un nouveau service d'Apple TV. Mais avant d'y arriver, on nous a présenté une nouvelle application Apple TV. Toi, est-ce que tu l'utilises, l'application Apple TV?
Alors, je l'utilise pas parce que j'ai pour l'instant qu'un service de streaming, donc j'ai que Netflix. J'ai pas pris Amazon Prime encore. Je me dis il y a déjà tellement de choses que je veux voir sur Netflix que ouais. Si je me rajoute un autre service, donc j'utilise pas l'application, mais j'ai regardé comment ça fonctionne et c'est vrai que l'idée de demander ce qu'on veut à cette application sur Apple TV et qu'elle aille chercher dans les différents catalogues. Ce qu'on veut, c'est vraiment une super idée, je trouve.
Moi, j'ai toutes les Apple TV et l'application télé, le bouton d'accueil d'Apple dans les dernières versions de TV-OS, le bouton d'accueil de cette télécommande-là ramené avant à la page d'accueil où vous avez toutes vos applications. Puis à un moment donné, ils ont décidé que le bouton d'accueil est ramené à l'application Apple TV. Alors, j'ai un peu un sentiment ambivalent par rapport à cette application-là parce que on me l'a poussé à travers la gorge dans les dernières versions de TVOS, ce qui fait que je l'ai pas trop aimé au début parce que quand on faisait une recherche dans l'application, elle allait bien, elle était belle, mais quand on faisait une recherche, là il y avait toutes sortes de streaming qu'il fallait souscrire. Alors je vois honnêtement pas la différence entre ce qu'ils ont présenté Et l'application télé que j'ai sur mon Apple télé ou même sur les iPads, une application qui me force dans le fond à m'abonner pour dès que je veux voir un contenu spécifique ou différent. Je sais que là, ils ont conclu certains accords. On va rester dans l'application Apple télé, ce qui fait que ben, ça sera pas juste un catalogue ou un index, mais il va falloir quand même payer, passer à la carte de crédit à chaque fois qu'on va vouloir voir un contenu qui est pas directement dans une compagnie de streaming. Je trouve ça particulier. Je sais pas.
Oui. J'ai pas compris ça, moi, en fait.
Non?
Moi, ce que j'ai compris, c'est que il y aura une nouvelle version de l'app qui s'appelle Apple TV.
Oui.
Certainement une version plus esthétique ou, ben voilà, juste une nouvelle version qui va permettre d'ajouter ce qu'ils appellent Apple TV Channel.
OK.
Donc ça sera pour les Américains. Et il y aura Apple TV Plus qui sera aussi intégré dedans. Donc c'est juste une nouvelle version de l'app qui va intégrer ces nouveaux services. Donc c'est une mise à jour classique en fait pour en fait l'application Apple TV, elle permet pour l'instant, on va dire par exemple en France, tu as accès, si tu cherches un film, en fait, c'est ça qu'il faut. C'est comme ça qu'il faut l'avoir. Tu cherches un film avec Tom Hanks.
Oui.
T'as envie de regarder un film avec Tom Hanks. Mm-hmm. Donc, tu demandes à t'appuyer sur la télécommande. Tu dis, je veux voir un film avec Tom Hanks. Et là, donc, l'app Apple TV, elle va aller chercher pour l'instant sur l'iTunes Store. Donc là, c'est le film que tu payes à l'unité. Elle va aller chercher sur les applis qui sont installées sur ton Apple TV. Donc, par exemple, si t'as Netflix, il va aller aussi chercher dans Netflix. Et par exemple, si t'as Amazon Prime aussi, il va aller chercher dans Amazon Prime. Donc, il va sortir toute une liste de résultats qui vont faire référence à différents catalogues et à différents services auxquels t'es abonné. Donc là, la nouvelle mise à jour, d'après les images qu'on a vues, ça sera plus esthétique que maintenant. Mais c'est surtout qu'elle va juste intégrer les nouveaux services d'Apple. Moi, j'ai compris ça.
Alors, présentement, moi, comment je l'utilise, sur les Apple télé, en tous les cas, de la minute que vous cherchez Tom Hanks, comme tu dis, ben là, il te sort toutes sortes de résultats d'applications qui sont pas nécessairement sur l'Apple télé. Alors, à chaque fois, tu te trouves à être obligé d'installer l'application. Tu tombes bien souvent sur des applications payantes avec des souscriptions. Fait que, au niveau de l'utilisabilité, c'est un peu moyen. C'est que tu sors de l'application d'Apple télé. Là, tu vas rester dans l'application Apple TV, mais il va falloir quand même souscrire pareil à cet abonnement-là. Alors, oui, c'est plus intégré, mais ça va pas être moins chiant d'avoir plusieurs abonnements à toutes sortes de services, comme tu disais. Là. D'ailleurs, je suis tout à fait d'accord avec toi, on en a déjà beaucoup trop.
Ben oui. Je suis en train de chercher pour confirmer nos doutes. Alors... ouais, en fait, et c'est ça doit paraître bizarre à ceux qui nous écoutent qu'on soit un peu perdus, mais en fait, ils ont présenté tellement de choses différentes et des choses qui sont réservées par exemple, Apple TV Channel, ça sera que pour les États-Unis, je crois. Il y a Apple TV Plus qui arrivera. Alors ça, j'avais noté. Apple TV Plus sera disponible cet automne. Pour l'instant, il n'y a pas de tarif.
Non.
Disponible partout. Donc là, Apple TV+, ça va être un peu comme on a dit Apple News+, tout à l'heure. Donc Apple TV+, ça sera en gros une partie dans l'application Apple TV qui sera payante et qui aura du contenu exclusif qu'Apple crée, puisqu'ils deviennent comme Netflix, en fait, un producteur de contenu.
Ouais, alors c'est ça. Alors, dans l'application Apple TV, l'option plus pour aller chercher le contenu de créé, en fait, par Apple, c'est je pense la première fois qu'Apple fait du contenu original brandé Apple. Audrey, peux-tu me confirmer ça? Parce que je n'ai pas de souvenir qu'Apple, à part les festivals de musique que tu peux avoir sur Apple Music, je ne sais pas quel contenu original ils auraient fait, mais je m'en souviens pas qu'ils en aient fait. Là, c'est la première fois.
Non, jamais. Ouais, non, c'est la première fois. Donc, en fait, ils deviennent une banque. Ils deviennent producteurs de films et de séries. Ils se diversifient vraiment beaucoup, quoi. C'est quand on fait le bilan de cet événement-là, c'est assez fou, en fait, vers toutes les tentacules là qui déploient à droite à gauche pour faire différentes choses.
C'est fou.
C'est ouais, ils prennent un axe assez curieux quand même.
Alors, la stratégie est assez différente de Netflix. Vous avez entendu ça par rapport à pour le comparer, pour vous aider à savoir ce qu'est le service ou à le comprendre. Apple lance son service de streaming comme Netflix. Oui, il lance un service de streaming, mais la stratégie est différente. À l'époque de Netflix, la stratégie était d'avoir du contenu qu'ils avaient acheté et au fur et à mesure, ils ont fait du contenu original. La différence avec Apple, c'est tout de suite de faire du contenu original. Il n'y aura pas une quantité faramineuse de choix, mais ça va être juste du contenu original fait par Apple. Vous trouverez pas des vieilles séries rachetées ou des choses comme ça. En tous les cas, c'est pas ce qu'ils ont dit dans la keynote. Est-ce que tu me confirmes, Audrey?
Oui, c'est ça.
Alors,
J'ai la confirmation. Donc, la nouvelle application Apple TV va juste intégrer les Apple TV Channel et le programme de streaming Apple TV+. Donc, en fait, c'est juste ça.
OK. Donc, elle n'aura pas, exemple, Prime TV, elle n'aura pas d'autres Crave ou d'autres types de services qui existent, Hulu aux États-Unis, là. HBO, exemple.
Ça, c'est intégré dans l'Apple TV Channel.
C'est ça, OK.
Qui permet de s'abonner à des bouquets de chaînes aux États-Unis pour l'instant. Par exemple, si tu veux t'abonner à HBO, ben, tu iras par l'application Apple TV, mais tu devras payer HBO.
Et au passage, ça sera certainement un peu plus cher en passant par Apple, comme on est habitué de connaître, je pense.
Je sais pas du tout. Franchement, c'est le flou total.
C'est assez vague. C'est assez vague. Bon, on va parler des spectacles parce que maintenant Apple différemment, c'est une émission culturelle, hein, étant donné
c'est
qu'Apple
ça.
Fait du fait.
On vire notre cutie là, c'est foutu.
Alors, premier gros show qui a été annoncé avec Steven Spielberg, Amazing Story. La promesse de ce spectacle, ben, en fait, de cette émission là, c'est d'avoir des émissions qui font rêver, des émissions de science-fiction, des émissions plus fantastiques. Il va y avoir The Morning Show avec Steve Carell, Reese Witherspoon, Jennifer Aniston, une émission plus du matin. On va continuer l'émission Show avec le Aquaman, une émission sur le futur, un drame post-apocalyptique. Il va y avoir toutes sortes d'émissions, Little America, il va y avoir Helpster, qui est une émission pour enfants avec Big Bird de Sesame Street. Il va y avoir Little Voice avec Gigi Abrams. Il va y avoir beaucoup de contenu. En fait, beaucoup de contenu, je vais modérer. Il y a quand même beaucoup d'émissions qui sont prévues. Au passage, on a confirmation qu'il n'y aura pas d'effusion de sang à profusion, qu'il n'y aura pas trop de violence, qu'il n'y aura pas trop de sexe. C'est du contenu Apple. Alors, pour ceux qui trouvent que, Netflix est un peu trop violent, si vous voulez quelque chose d'un peu plus soft, vous irez du côté de chez Apple. Ça ne veut pas dire que ça sera mauvais. Ça va juste être plus léché, plus américanisé, on va dire ça comme ça. une émission avec Oprah. Oui, vas-y.
Oui, non, je confirme ce que tu dis, c'est américanisé, quoi.
Tu voulais confirmer ça, ouais, c'est ça. Une émission avec Oprah. Oprah Winfrey, c'est une animatrice américaine ultra populaire qui, pour certains, a été, au niveau politique, très accoquinée avec Barack Obama, qui, pour certains, disent que ça a été le succès de son élection, pour vous dire à quel point le pouvoir qu'elle peut avoir au niveau de la télévision. Oprah va être avec Apple TV, Apple TV+, avec un show, ça va s'appeler Oprah, tout simplement, à partir du... C'est pas encore confirmé, mais elle est montée sur scène avec Tim Cook, Tim Apple, comme le dit le président américain, pour faire plus vite. Plusieurs autres émissions aussi qui sont en rumeur, Central Park, une émission biographique sur la CIA, d'autres émissions qui arrivent, c'est beaucoup de sortes de rumeurs. Comme disait Audrey, un investissement pour le moment de près de 2 milliards de dollars, je pense, c'est ça que tu disais.
C'est ce que j'ai entendu, oui.
C'est assez conséquent comme type d'investissement. Ils arrivent lourds, vite. Je trouve que c'est un risque, tu trouves pas?
Ben écoute, moi, quand j'ai vu toutes ces stars défiler, je me suis dit, même si c'est des bons acteurs, et bien sûr Spielberg, il est indétrônable, hein, évidemment, mais je me suis dit, tu vois, Netflix, ils nous ont sorti, ils ont produit des séries incroyables, avec des inconnus, des acteurs qu'on n'avait jamais vus. Et je me suis dit, c'est au final, quand une série est bonne, et ben même quand les acteurs sont pas connus, elle est bonne quand même, tu vois. Et je me suis dit, là, je suis en train de regarder justement la liste des séries produites par Netflix. Et dedans, franchement, il y a Orange is the New Black. C'est une super série. Oui. House of Cards, Sense8, Stranger Things. Il y a 13 Reasons Why, Atypical. Enfin, en fait, toutes ces séries-là sont vraiment... Enfin, moi, c'est des séries que j'adore. Et tu vois, pourtant, les acteurs sont pas connus. Mais au final, je trouve que, tu vois, ça fait un vent de fraîcheur. Ça fait du boulot pour plus d'acteurs. Donc, en fait, quand j'ai vu toutes ces stars défiler, je me suis dit, ouais, ils veulent vraiment en mettre plein la figure à tout le monde, quoi. Tu vois, ils veulent nous dire, on est là, on a du pognon, on a les meilleurs avec nous, donc ça va être génial. Ce que j'espère. J'espère qu'on va se régaler. Mais pour moi, c'est pas un gage de... Tu vois, Jennifer Aniston, même si c'est une bonne actrice, je vais pas forcément regarder une série parce qu'elle joue dedans, tu vois.
Je comprends ce que tu veux dire. Puis en plus de ça, il y a beaucoup de titres indépendants, des fois, qui s'avèrent être des grands, grands succès ou des choses qu'on s'attendait pas, qui ont été faites en Inde, en Espagne, ou, tu sais, exemple, La Maison de Papier en Espagne, qui est un succès fulgurant sur Netflix, ben, c'est pas un titre qui serait sorti, c'est pas un titre qu'on attendait ou qu'on voyait venir. Je comprends ton idée par rapport à ça. Mais en même temps, faut comprendre la stratégie. Ils arrivent pas avec du contenu achetés ailleurs, ils arrivent avec leur propre contenu, ils n'ont pas le choix d'aller chercher des valeurs sûres. Dans le monde artistique, on appelle ça des A, des B, des C. Les artistes, faut pas se le cacher, sont classés en fonction de leur popularité. Ils ont certainement pris tout le gratin, la catégorie A probablement, et ils se sont dit, OK, on fait des émissions avec eux pour attirer les premiers clients, et après ça, le cash flow aidant, on va peut-être réussir à produire d'autres trucs. Moi, je pense que c'est pas tant Netflix qui devrait avoir peur, mais c'est des studios de type traditionnel, de la Warner, ABC, même à la rigueur, à certains égards, Disney... Où va être la place par rapport à la création de contenu après au niveau numérique, ça va être une problématique, mais au niveau physique normal, ça va être encore plus compliqué.
Ouais, et puis je pense que Apple, je pense pas qu'ils sont jaloux de Netflix, mais en tout cas, Netflix a réussi. Enfin, pour moi, ils ont révolutionné le rapport qu'on avait avec la télévision, puisque moi, ça m'arrive pendant des semaines de pas regarder ce qui se passe ce qui est diffusé, on va dire, sur le câble ou sur la TNT, et de regarder que des films ou des séries sur Netflix. Et j'aurais bien aimé que ce soit Apple qui crée ça. Bon, ça a été Netflix, mais en tout cas, moi, je suis assez reconnaissante. Je suis souvent attachée aux gens et aux sociétés qui innovent vraiment. Et Netflix, pour moi, ils ont vraiment innové. Quand ils sont arrivés en disant tout le catalogue pour 10 € par mois, mais c'était de la folie, quoi. Enfin, on attendait tout ça, on pensait que ça arriverait jamais, quoi. Donc là, on verra, est-ce qu'on n'a pas de prix non plus pour l'Apple TV Plus, là?
Alors, on n'a pas de prix, on n'a pas de date de sortie réelle des émissions, on n'a que des rumeurs sur certaines émissions. Dans le fond, cet événement a été plus un événement de... Vous allez voir, ça va être bon. Vous allez voir, on va faire ci, on va faire ça. Mais concrètement, il y a peu ou pas de choses qui sont sorties réellement à part Apple News Plus, qui est quand même une valeur sûre parce que Texture était là depuis bien des années, la compagnie qu'Apple avait rachetée. Alors, c'est quelque chose qui est intéressant au niveau culturel. Ça laisse rêveur, ça laisse prometteur. Mais au niveau des services, il y en a d'autres chez Apple, style iCloud. Et toi, ça t'a laissé sur ta faim, cet événement-là.
Ouais, j'aurais bien aimé, comme l'événement était... Après, c'était Showtime, donc c'était lié à la télévision, on le savait. Bon, ils ont quand même parlé d'une carte bancaire, donc il y aurait peut-être une petite place pour iCloud. J'aurais bien aimé, j'aimerais vraiment qu'ils fassent évoluer la version des 5 gigaoctets de stockage gratuit. J'aimerais bien, pour éviter, parce qu'en fait, le problème des 5 gigas, c'est vraiment, les gens y arrivent très vite.
Oui.
Et du coup, après, on se doute bien qu'Apple veut nous vendre du forfait. C'est pas ça que je veux dire, mais j'aimerais bien qu'ils évoluent, en passant, par exemple, à 10 ou 20 gigaoctets, ça serait sympa. Ça apporterait vraiment une valeur ajoutée aux gens qui ont peu de photos, ou voilà, ils se diraient, je peux sauvegarder mon iPhone, je peux sauvegarder mes photos, si j'en ai peu, ça suffit, le stockage qui est offert, donc je trouve que ça serait intéressant. Et puis, j'aimerais bien un jour qu'ils nous sortent un iCloud pour le Mac, ça serait bien. Un système de sauvegarde sur iCloud pour le Mac, pour qu'on arrête d'acheter des disques durs.
Je te comprends. Bon, en même temps, maintenant, avec l'explorateur de fichiers, on a iCloud directement dans Finder. C'est quand même déjà moins mauvais, mais c'est sûr qu'on peut pas mettre directement notre système de sauvegarde directement dans iCloud. Là, on peut pas mettre un Time Machine plugué dans ton iCloud. C'est ça que t'aimerais, toi?
Ouais, ça serait bien. Qu'on ait toujours la possibilité de sauvegarder, bien sûr, sur des stockages externes si on veut, mais qu'ils offrent la possibilité de faire ça en ligne. Et tu me disais tout à l'heure, avant qu'on commence, à ce propos-là, qu'ils avaient lancé qu'ils construisaient des data centers?
Oui. En fait, deux gros data centers sont sortis leur construction a été terminée il y a un peu moins de 6 mois. Je suis pas mal certain qu'ils vont arriver avec d'autres types de produits au niveau du service cloud dans d'autres conférences. Oui, il y avait la carte de crédit dans Showtime, mais ça va arriver. Je pense aussi qu'il va y avoir aussi des regroupements de prix parce que, comme chez Amazon, par exemple, quand vous prenez Prime, vous avez Prime TV, vous avez Amazon Music, vous aviez la sauvegarde de photos directement avec la livraison incluse. Je suis pas mal certain que Apple va arriver avec un genre de package deal comme ça. Mais pour faire tout ça, faut avoir l'écosystème en arrière, faut avoir les machines en arrière, faut avoir le stockage en arrière. Et c'est clair que Apple travaille présentement d'arrache-pied. Faut pas oublier qu'on l'a dit dans certaines émissions, qu'Apple a fait attention à tout ce qui est écologie. Alors, quand ils construisent des data centers, c'est pas comme construire une usine puis mettre des machines dedans. Faut avoir la sensibilité au niveau de l'écologie, d'avoir des systèmes qui vont être capables d'avoir de l'énergie renouvelable. C'est plus long. Mais comme disait M. Buffett, qui a investi, qui détient à peu près 6% ou 5% de la compagnie Apple. Pour lui, c'est une valeur sûre à Apple parce que c'est là pour longtemps. Et on le voit dans tout ce qu'ils font. C'est pas des annonces puis ils ont tout de suite le produit. C'est on s'en vient, on arrive. C'est plus long. C'est des démarches pour lesquelles des fois on peut s'impatienter quand on voit des compagnies autres ailleurs qui sortent des produits aux 2 mois, style Huawei, Xiaomi, Apple. C'est pas comme ça qu'ils construisent. C'est différent, c'est sur du long terme. Et je suis certain que tu vas avoir tes sauvegardes iCloud et que je vais avoir mon package deal, mon achat groupé dans les produits et services plus tard.
Ouais, il faut être patient.
Alors, on parlait de musique, on parlait de services. À part le service vidéo, c'est dans la suite logique de ce que fait Apple. Je vous ai fait juste un petit wrap-up de tout ce qui a été fait chez Apple au niveau du multimédia, en fait, en dehors du hardware. La musique chez Apple est arrivée sur iTunes à partir de 2003. On n'aime pas iTunes, mais ça a quand même été le vecteur de beaucoup, beaucoup de services pendant plus de 10 ans à l'intérieur de ça. iTunes a permis l'arrivée de la musique dématérialisée. Avant le streaming, ça a quand même été Apple le premier à arriver avec des pistes à 99 cents. Rappelez-vous, à l'époque où Napster, où les gens installaient Napster, pirataient allègrement, Apple est arrivé quand même avec un service de musique à 99 cents qui a été un réel succès. Les gens achetaient à profusion des disques à une certaine époque. Après ça, le piratage est arrivé. Apple a réussi à convaincre l'industrie de dire, vous allez abandonner vos galettes en plastique qui prennent la poussière. Moi, je vous propose un système de paiement en ligne à partir d'iTunes, mais ça me prendrait les droits des auteurs et ainsi de suite. Et c'est en 2003 que iTunes est arrivé avec ce service-là, avec l'écosystème qui allait bien avec, parce faut pas l'oublier. Apple, c'est pas juste Spotify, un service de streaming en musique. Apple, t'as l'écosystème pour consommer ton média au complet, du début jusqu'à la fin, de la télé, du téléphone, de la tablette, jusqu'au service. Ce qui fait que vous pouvez rester, pour certains, emprisonné dans cet écosystème-là, mais c'est quand même le seul écosystème complet où il y a tous les services allant bientôt du jeu vidéo jusqu'au téléphone, jusqu'aux revues, jusqu'aux livres, à travers ces produits. Et iTunes, ce mal-aimé depuis maintenant 1999-2000, je pense, qui est arrivé, a quand même été le vecteur important du multimédia. Alors, j'ai dans les notes d'émission, vous verrez, j'ai un article que j'ai sorti de Rolling Stone Magazine qui expliquait le 10e anniversaire en 2013, du 10e anniversaire de iTunes, qui explique à quel point ça a été un vecteur de changement, le fait que Steve Jobs arrive à convaincre l'industrie d'y aller avec des ventes de disques. Dans les notes de l'émission, je vous rappelle aussi, je vais un peu plus rapidement, mais je vous rappelle aussi qu'il y a quand même eu, après ça, le vidéo en 2005, les livres en 2010, la musique en continu en 2017. Apple n'est pas nouveau dans la diffusion de contenu. Son modèle est en train de changer en ce moment. Il s'adapte à du contenu plus téléchargeable, mais en streaming, en continu, où il ne vend plus le format numérique à la pièce, mais il vend une librairie complète de musique comme Apple Music, et bientôt une librairie complète de films comme Apple TV+, comme News+, pour des revues, et ainsi de suite. C'est vraiment un changement de forme de média, mais pour Apple, c'est juste dans la continuité logique de ce qu'il faisait auparavant. Toi, Audrey, as-tu beaucoup consommé sur iTunes des produits auparavant? Achètes-tu encore ta musique à la pièce?
Ouais. Ouais, en fait, là, j'ai lancé iTunes, justement. Alors, c'est vrai qu'il est souvent... il est mal aimé, hein, c'est clair, parce qu'il est lourdeau, quoi. Il est un peu... ils l'ont jamais vraiment optimisé. Moi, ce que j'aime bien, c'est que... par exemple, il gère aussi les podcasts. Ouais. Donc, par exemple, moi, j'écoute un podcast dans ma voiture, je rentre chez moi, je lance la lecture sur le Mac, le point de lecture est synchronisé, donc ça reprend là où je m'étais arrêté, entre mon iPhone et mon Mac. Donc ça, je trouve ça intéressant. Et après, ouais, je regardais, j'ai acheté quelques films quand même à l'époque où il n'y avait pas de streaming, hein, où on achetait les films, donc surtout des dessins animés pour moi-même, mais pour les neveux et nièces aussi. Et puis, oui, j'achète encore, ça m'arrive. En fait, la musique, j'ai vraiment changé d'approche, c'est-à-dire que j'écoute, j'achète de la musique, mais au morceau, quoi. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte qu'acheter un album complet, sauf si on est vraiment fan, en général, on aime une ou des chansons, puis on n'écoute pas les autres. Mais là, bon, je me dis, il faudra vraiment que je passe à la musique, à Apple Music, quoi. Faudrait que j'y passe, c'est sûr. Mais j'écoute beaucoup de podcasts, en fait, et quand j'écoute de la musique, souvent à la radio, donc je suis pas encore assez, j'écoute pas assez de musique, en fait, pour mettre 10 € par mois dans cet abonnement. Mais c'est vrai que mis bout à bout, tous ces abonnements, là, ça commence à faire cher, en fait, hein.
Écoute,
si tu prends tous les services.
Oui. Moi, j'ai un compte iCloud payant plus cher là, pour avoir 200 gigs. J'ai Apple Music. J'ai iTunes Match que j'ai mis la fin. iTunes Match que c'était en fait, c'est de pouvoir mettre jusqu'à 200 000 titres que vous possédiez à vous, qui ne sont pas nécessairement dans la librairie iTunes, le mettre dans iTunes, de les téléverser, de les uploader chez Apple et qu'ils soient accessibles à tous vos appareils. Et au passage, quand ils pouvaient le faire, c'est qu'ils prenaient un format mal enregistré MP3 puis ils le recompressaient. En fait, ils retrouvaient la bonne source originale et vous donnaient la licence légale. Fait que pour un bout de temps, moi, ça m'a permis de redevenir dans le monde de la lumière, dans le monde légal, grâce à
légaliser ta musique.
Ouais, grâce à iTunes Match. Et tu vois, c'est vrai, si j'ajoute Amazon, si j'ajoute tout simplement Netflix, si j'ajoute toutes sortes de forfaits, ben oui, ça commence à faire. Par contre, ce qui est bien, puisqu'on n'avait pas dans les autres types de forfaits auparavant dans d'autres mondes, c'est qu'on peut payer pour la famille. Maintenant, il y a le concept d'achats familiaux qui sont vraiment assez intéressants, là. Quand tu regardes chez Spotify ou que tu regardes chez Netflix, le forfait familial est beaucoup plus intéressant que d'acheter un par un dans sa famille le forfait.
Ouais, et puis là, j'étais en train de me dire, si Apple un jour faisait un espèce de package avec tous ses services, la cerise sur le gâteau, ça serait vraiment qu'on puisse accéder à l'iTunes Store vidéo gratuitement, en fait. Parce que là, y a vraiment un énorme catalogue de films.
Ouais.
Et c'est vrai qu'on voit la location, ça va être 5€ chez nous, ou si tu l'achètes, c'est aussi cher que sur Blu-ray ou DVD, quoi, c'est 15€, voire 20€.
Ouais.
Donc, 20€ pour un film dématérialisé, qu'on peut pas prêter aux gens en plus, bon, c'est encore très très cher. Je sais pas s'ils font beaucoup de ventes de ce côté-là.
Alors, la petite astuce en ce moment, c'est que, étant donné qu'Apple est en train de préparer son service vidéo, il y a de plus en plus de rabais, de groupements. Exemple, si vous voulez avoir Retour vers le futur 1, 2 et 3 en full HD, ben là, vous pouvez l'acheter en ce moment pour moins de $10 et vous avez les trois films. Il y a vraiment des bonnes offres en ce moment sur l'iTunes Store si vous êtes intéressé à conserver des films, parce que faut pas se le cacher, hein, ces abonnements-là, de la minute que vous avez plus les abonnements, vous avez plus le contenu. C'est pas encore une mauvaise idée de conserver ces médias que vous avez payés. Hein.
Ah ouais, je partage pas trop ton avis, parce que moi, je vois, j'ai acheté pas mal de films, comme je disais, et en fait, ils sont quasiment sur Netflix, ou ils sont...
Ah ouais?
Bah ouais, donc en fait, je les ai achetés, mais bah, je les regarde pas, parce qu'ils sont en streaming sur Netflix, quoi. Donc...
Mais si un jour venait l'apocalypse où il n'y avait plus de services de streaming, Audrey, tu les aurais encore maintenant?
Oui, oui, c'est sûr, si on voit les choses comme ça. Mais si à l'apocalypse, mon ordinateur ne marcherait plus, je crois. Donc bon, on aurait d'autres combats à mener, tu sais. Ouais, non, mais c'est vrai qu'il y a des offres intéressantes. Là, je suis en train de regarder. Ouais, ils regroupent des trilogies. Il y a la trilogie de Matrix, par exemple, à 10€ pour les trois films. Ouais.
Ouais, on sent que c'est la fin, d'après moi, ou en tous les cas, et qu'il y a de moins en moins de clients, puis là, ils font des promotions assez intéressantes.
Par contre, ce qui avait été sympa de la part d'Apple, c'est de passer en 4K tous les films que les gens avaient achetés en HD ou en Full HD. Donc ça, je trouvais que c'était classe, c'est bien. J'étais contente pour les gens qui avaient acheté... ça se trouve, moi, j'ai pas regardé, mais si ça se trouve, je peux récupérer des films en 4K, mais j'ai pas de télé 4K, donc bref... Ouais, ils savent faire ce qu'il faut quand il faut pour bien se faire voir, ça va.
Alors Audrey, on commence à bâtir une communauté avec Apple différemment. Sur Twitter, Gontran nous a soumis une question, en fait, un streetcast de Grug, qui est un dessinateur, qui a un compte sur Twitter. Allez voir tout ce que Grug produit, G-R-U-G. Dans un de ses streetcasts, il faisait une mention à savoir s'il était possible de présenter à partir d'une tablette, de faire la recopie d'écran sur une Apple télé, sur un projecteur, sans forcément avoir un réseau dédié pour ça. Typiquement, est-ce qu'on est obligé d'avoir un routeur, une connexion Internet pour pouvoir streamer des choses sur une Apple télé ou sur un iPhone ou sur une tablette?
Eh bien, écoute, je sais qu'entre Mac, on peut faire de la connexion, ce qu'on appelle un réseau ad hoc. Donc, c'est un réseau d'appareil à appareil, qui sont tous les deux équipés. Ça marche en Bluetooth, en Wi-Fi, en Ethernet, bien sûr, mais en sans fil, ça fonctionne. De l'iPhone au Mac, ça fonctionne puisque AirDrop, par exemple, fonctionne même si on n'est pas connecté au même réseau. Et AirDrop, pareil, va utiliser un réseau direct entre les deux appareils. Et l'Apple TV, bah écoute, j'ai jamais essayé, mais je vais chercher ça. Alors, donc ça serait réseau ad hoc. Donc ad hoc, ça s'appelle, c'est pas le capitaine ad hoc, c'est AD. Ça s'écrit AD-OHOC.
Ouais. Et là, Grug, tu vas avoir la réponse, on l'espère, en ligne. Au pire, on va essayer de te l'envoyer. Tu devrais être en mesure de peut-être pouvoir caster ta tablette directement sur ton Apple télé. Bref, toujours est-il que ça m'a donné une idée. Si vous avez d'autres questions ou des suggestions, on essaiera d'en prendre une de temps en temps dans Apple différemment, puis d'y répondre. C'est assez intéressant d'aider la communauté par rapport à ces problématiques qu'on vit ou qui sont bien spécifiques. Audrey, on va directement à la partie inspiration, et à chaque fois que je switch de section, je commence toujours par Audrey.
Oui, c'est moi. Autant que tu m'appelles pas Bernadette, ça va.
Alors Luc, non Audrey, tu as dans la partie inspiration remis un article de Numérama sur la charge mentale des milléniaux.
Ouais, en fait, j'ai été assez surprise. Alors, parce que, donc, ils disent les milléniaux, tu dis ça comme ça, toi, les milléniaux, ouais, d'accord, ouais, font des listes pour tout et ça ruine leur vie. Et en fait, c'est un article que j'ai trouvé assez intéressant, puisque, en gros, ils expliquent que les personnes de moins de 35 ans, donc j'en ai 37, donc je me considère un petit peu comme eux, font des listes pour tout, mais c'est assez hallucinant. Par exemple, y a quelqu'un qui disait, ils font des listes, par exemple, des films qu'ils ont vus, des livres qu'ils ont lus, et en fait, ils passent énormément de temps à remplir leur liste. Et c'est vrai que ça, c'est un problème, c'est comme les bullet journal, tu vois ce que c'est?
Oui, absolument, ouais.
Moi, j'y ai cru un moment, tu vois, je me suis acheté un petit carnet et tout, j'ai commencé et je me suis dit, mais le temps que je passe à faire ce truc, je le passe pas à produire du contenu. Et je me suis vite dit, mais bah, pour moi, c'était une perte de temps, j'ai pas trouvé l'intérêt. Alors, il y a plein de gens qui vont se dire, mais c'est pas possible, c'est fait justement pour être mieux organisé. Mais en gros, si tu veux, moi, j'ai pas trouvé l'intérêt. Et donc là, ils disent que, ben, en fait, les gens de moins de 35 ans ont un peu le problème inverse, c'est-à-dire qu'ils font des listes pour tout. Et par exemple, pour il y a quelqu'un qui fait une liste avec des nouveaux mots pour ne pas les oublier. Il entend un mot qu'il a jamais entendu, il va le noter. Des idées de cadeaux, donc les films, les livres, des cadeaux d'anniversaire qu'on pourrait faire, enfin les projets, ils font des listes pour tout en fait, et c'est assez problématique parce que ça, c'est rassurant, voire thérapeutique, mais en gros, ça crée des obligations. En fait, ils se disent, si jamais j'ai pas rempli ma liste, je me sens pas bien. Enfin, tu vois, c'est presque, enfin,
oui, oui.
C'est une charge mentale en fait. Ouais. Des to-do list comme ils disent, et c'est assez intéressant cet article. Est-ce que tu fais beaucoup de listes, toi?
Alors moi aussi j'ai ce problème là avec les listes, c'est que j'arrive pas à m'y astreindre. Ce qui marche très bien pour moi, c'est de bloquer mon agenda pour faire des périodes de travail, mais de regarder une liste, ben je le fais au bureau, mais pour le reste du temps je le fais pas. Je vois un parallèle qu'on peut faire, par exemple, avec des milléniaux qui... Bon, on va faire de la grosse généralisation, là, on va généraliser un peu, là, les amis. Il y a cette génération d'enfants qui a été très bien structurée par des parents, avec des cours de piano le lundi, les cours de chevaux, d'équitation le lundi, des cours de ci le mardi, où les parents les ont très très bien structurés, et j'aurais tendance à penser que c'est une recherche de structure qu'ils ont besoin dès qu'ils quittent le nid familial, peut-être, et qui fait que, ben, ça, ils perdent le contrôle. Fait que, moi, je pense, il y a cet axe-là. Il y a aussi l'autre axe où je me rends compte que le succès des titres d'articles et là, je le comprends plus, les top 10 de quelque chose, les 10 noms de d'applications que vous voulez avoir, les, tu sais, ces titres-là, oui. Je pense qu'ils doivent accrocher aussi pour certains types de générations, parce que c'est un peu comme ça qu'ils travaillent. Oui, ça fait des charges mentales de la minute où on fait des listes pour des tâches, mais qu'on n'a peut-être pas nécessairement le temps de les faire toutes. Ça va.
Oui, c'est ça. Là, il y a quelqu'un qui dit, dans l'article, il y a quelqu'un qui se fixe 25 livres à lire par an et 2 films à voir par semaine. Et en fait, il dit qu'il a besoin de cocher quand c'est fait, sinon ça va pas. Et en fait, je trouve ça très problématique parce que la vie, c'est pas que remplir les objectifs. Enfin, si on n'a pas eu le temps de voir les 2 films par semaine parce qu'on a fait quelque chose de mieux, c'est mieux. Tu vois, en fait, c'est... Après, moi, je fais des listes, personnellement, quand j'ai trop de choses en tête. Souvent, je fais une liste pour me libérer l'esprit. Et après, je peux me dire, bon, ça, c'est fait, j'efface. Mais en fait, j'ai des listes d'idées, bien sûr, mais pas des listes d'objectifs comme ça, parce que sinon, on a déjà tellement de choses à penser, à faire, tellement d'obligations, que si en plus on se rajoute des listes, je comprends que du coup ça, il parle de charge mentale, parce que c'est assez problématique, quoi.
Ben toi, dans le fond, tu décharges ton cerveau pour pouvoir avoir de la place pour faire d'autres choses, pour pas l'oublier. Puis eux autres, ben, se font des listes de tâches puis des obligations. C'est différent, ça, c'est clair. Il y a aussi le principe qui est assez motivant pour certains, de pas briser certaines chaînes, comme moi, exemple, au quotidien, j'ai une application qui s'appelle Strake, qui m'aide à continuer à faire des trucs. Mais j'ai pas 20 trucs à faire dessus. J'ai 4 trucs que je veux faire à chaque jour et je veux comme pas briser la chaîne pour avoir, pour garder les statistiques, pour voir et ainsi de suite, pour si certains jours je suis plus enclin à faire ou à moins le faire. Mais c'est vrai que c'est pas obligatoire dans mon cas. Faut faire la part des choses. Et je pense aussi qu'on est dans une surabondance de plein de trucs, ce qui fait qu'on est toujours dans cette ère-là, une surabondance de tâches à faire, une surabondance d'activités, une surabondance de listes. Ouais. C'est, il y a trop de trucs, oui, et tu le disais tantôt, hein, Netflix, Prime, on a trop de trucs, et ben, il va falloir faire des choix. Mais je pense que c'est là où c'est difficile. C'est le fait de faire des choix. On veut tout avoir, tout le temps, tout. Et je pense que cette génération-là tombe des nues par rapport à ça.
Oui, parce qu'en fait, on est dans une société où on demande à être hyper productif. Donc en gros, on n'a jamais le temps de rien. Par exemple, même quand tu es en deuil, par exemple, bah, t'as plus le temps de faire ton deuil. Et j'ai, enfin, c'est pas très gai ce que je raconte, mais j'ai une cliente qui me racontait ça, elle me disait... Vous rendez compte que maintenant quelqu'un qui tombe malade ou qui se casse une jambe ou voilà, c'est tant de semaines ou tant de jours, mais on s'adapte pas à l'humain. En fait, on a établi des quotas. Si en 6 semaines tu vas pas mieux, ben tant pis, tu retournes quand même. Et en fait, du coup, on vit dans un monde où tout est chronométré, tout est il faut faire 10 000 choses pour être bien vu, moi je prends, c'est vrai que je prends plutôt le tournant inverse en me disant je veux plus de simplicité. J'utilise, tu vois, les apps que, pour revenir à l'iPhone, les apps que j'utilise pas, je les désinstalle. Et je me dis, ça sert à rien. Si je l'ai pas utilisé depuis 2 mois, c'est que je m'en sers pas. Pareil pour tout ce qui est matériel, hein. Un produit technologique que j'ai pas sorti de sa boîte depuis 3 mois, c'est que j'en ai pas besoin. Donc, je vais le revendre. Et en fait, je simplifie au maximum depuis quelques années maintenant tout parce que, toute façon, on n'est pas tous égaux face à ce que la société nous demande. Et donc, les gens qui peuvent pas répondre à ce qui est bien de faire, ce qui est bien vu, bah du coup, ils se sentent nuls, ils se disent « Oh, je suis pas capable, je suis pas assez intelligent. » Et en fait, ça dévalorise beaucoup de monde, quoi. Et du coup, pour moi, tout ça, c'est lié, quoi. Il va falloir lever le pied, vraiment, parce qu'on arrive à des situations assez compliquées, hein. Les gens qui se rendent malades parce qu'ils n'ont pas rempli leur liste, quand on prend un point de recul, on se dit, mais c'est complètement fou, quoi.
Écoute, je suis en ce moment, au niveau privé, dans mon travail au quotidien, confronté à la transformation numérique. Si vous avez votre carte de bingo à Buzzword, c'est le moment de cocher. Je vais faire plusieurs mots qu'on utilise dans l'industrie. J'ai assisté à une conférence de Microsoft la semaine dernière qui disait, grosso modo, la transformation numérique, ça passe par des gens qui doivent en savoir plus, qui doivent en faire plus, des gens qui doivent cultiver leur réseau, des gens qui doivent... Et je ne peux que être d'accord avec toi, malheureusement... dans la société en ce moment et dans l'économie en général, il faut être de plus en plus compétitif. Mais en même temps, pourquoi? Quand on voit que, puis là, c'est le bout Apple différemment philosophie. Quand on voit que certaines compagnies engrangent des profits sans vraiment redistribuer la richesse, à quoi bon à continuer à alimenter cette strate-là? Je suis totalement d'accord avec toi. Malheureusement, c'est très dans l'air du temps d'être plus. C'est Google plus. Ben, il est fermé, c'est pas vrai, mais c'est Apple plus. Tout est plus. C'est l'homme amélioré, la biotechnologie. Ça n'arrête pas. Je suis vraiment d'accord avec toi. Mais on va frapper un mur. L'humain, il faut le gérer parce que c'est pas une machine. On s'en rend compte totalement en ce moment. Si on n'adresse pas ce problème-là, ben là, on a des enfants, en fait, une génération qui fait des listes, mais qui n'arrive pas à les terminer. Ben là, on n'aura plus personne un jour, ils feront même plus de listes. Mais malheureusement, c'est un constat que je fais moi aussi en ce moment. Dans l'industrie de la tech, je peux en parler parce que je la connais plus. C'est vraiment, vous devez faire plus, vous devez travailler plus, vous devez être encore plus meilleur, vous devez en connaître encore plus de code, vous devez en connaître... Et ça n'arrête pas. Puis en même temps, parallèlement, ça laisse des gens sur le carreau. Totalement. Il y a et c'est plus juste des abrutis, là. C'est des gens qui n'arrivent plus à suivre. Ils sont pas stupides, ils sont pas abrutis, c'est juste qu'ils sont épuisés, ils sont plus capables de suivre par rapport à la société qui demande toujours plus, plus, plus. Et c'était fabuleux, hein, la conférence de Microsoft. J'ai eu la même de chez Amazon il y a un mois et demi à Montréal, dans lequel ben on faut faire plus, on est capable de faire des 50 apps en 50 jours, tu sais, ils ont des programmes d'accélération, ils appellent ça comme ça. Oh là là. C'est délirant. Et malheureusement dans l'industrie de la tech, ça il y a une accélération phénoménale en ce moment et personne prend l'humain en compte. Alors, il commence à avoir des grands vents coureurs d'amélioration du quotidien. On le fait, nous, avec Relife, avec Guillaume, au niveau des podcasts. Au début, j'avais vraiment l'axe de vouloir en faire plus. Puis là, je commence à ralentir pour essayer de comprendre un peu plus où est-ce qu'on va. Mais ça commence. Il y a quelques espoirs, mais au niveau de la tech, c'est hallucinant. Où faut faire plus, faut être plus productif, faut être plus payant, faut que la compagnie ait plus de dividendes.
Mais de toute façon, ceux qui me connaissent, qui me suivent sur Twitter, savent que j'ai fait un burn-out il y a quelques années, et clairement, depuis, je suis pas totalement remise, hein, mais même si vous avez l'impression, enfin souvent tu me dis, ah tu fais ça, tu fais beaucoup de choses, mais en fait par rapport à ce que je faisais avant, je suis large, et du coup, en fait maintenant, moi je me suis vraiment dit, bah oui, ça fait peut-être 3 mois que je suis pas allée au cinéma, bah oui, mais j'ai écrit un article sur mon blog parce que j'avais envie de le faire. Alors oui, je fais pas forcément ce que la société attend de moi, mais moi maintenant c'est clair que c'est terminé et que c'est je fais ce que j'ai besoin de faire pour moi-même, pour ma compagne, pour ma famille, mais après au-delà, j'ai plus du tout envie de vivre dans cette en fait c'est un mensonge, clairement c'est clairement un mensonge quand on a l'impression de pouvoir tout faire, de pouvoir tout gérer. Je peux vous dire que le jour où on fait un burn-out, on se prend une claque monumentale et on se dit bon ben j'aurais vraiment dû lever le pied bien plus tôt et pas vouloir tout assumer toute seule. Et bon, j'étais dans la presse hein, avant, donc c'est pour ça que j'en ai parlé tout à l'heure en disant que c'est très compliqué. Et c'est vrai que c'est très compliqué parce que même dans la presse, même dans les hôpitaux, partout, les gens doivent travailler pour faire le travail de 2 ou 3 personnes. Et je pense qu'à un moment, il va y avoir un vrai, vrai problème de santé publique. Je sais pas comment c'est au Canada, mais en France, on est vraiment... le burn-out n'est pas reconnu comme maladie professionnelle. Enfin, il y a vraiment une omerta là-dessus et c'est... Ouais, c'est vraiment lamentable, quoi. C'est bon, on est très loin d'Apple là, mais en tout cas, je pense que les technologies nous poussent à en faire toujours plus. Je raccroche le wagon là. Les technologies nous poussent à en faire toujours plus, et j'ai envie de dire, au final, posez-vous des questions, simplifiez au maximum vos apps, utilisez ce qui est uniquement nécessaire, et puis ça vous libère des minutes et des minutes, et puis au fil de la journée, on récupère du temps.
Ben, tu sais, et puis on va le raccrocher le wagon avec le contenu. On n'a jamais eu autant de contenu, puis on dirait que c'est une compétition. Même moi, je le fais, des fois, je me surprends à dire « Merde, j'ai passé 5 heures à écouter cette télésérie-là, parce que l'épisode suivant était là, l'épisode d'après était là, l'épisode... » Alors, ça va aller jusqu'où? Je suis totalement d'accord avec toi, et puis c'est pas pour arrêter, là. Il y en a de plus en plus de services, de plus en plus alléchants. Faut être capable de choisir. Chez Apple, différemment, on vous dit de rester chez Apple et de pas regarder ailleurs. Non, c'est une blague.
Non, bien évidemment. C'est une blague, mais en fait, il faut se connaître. Déjà, c'est la première chose. Ouais. Parce que ça, c'est pas quelque chose qu'on apprend forcément quand on est gamin. Apprendre à s'écouter, se connaître, et puis à se dire, bon, là, je suis abonné à un seul service de streaming, mais au final, est-ce que ça me suffit? Oui, non. Et puis voilà, en fait, faut prendre un petit peu de recul régulièrement pour pouvoir se poser les bonnes questions, quoi. Mais il faut déjà se dire qu'il faut le faire. Chose que, tu vois, moi, je faisais pas du tout avant. J'avançais tête baissée et puis je me posais pas trop de questions. Je bossais et puis voilà. Bon, c'est comme ça.
Où est-ce qu'on en était?
Ouais.
Ben, on parlait de mensonges. On parlait de mensonges. Il faut pas se mentir. Et puis, c'est le bout historique où il faut pas se mentir, mais il fallait certainement pas mentir à Steve Jobs. C'est un article que je vous ai Oh, le lien, il a été difficile, mais je l'ai fait quand même. Le lien, c'est un article de CNBC où Guy Kawasaki, qui a été un des premiers à parler d'évangélistes techniques, d'évangélistes dans le domaine de la tech, où c'était plus connotation religieuse à l'époque, les évangélistes. Guy Kawasaki a été un des premiers. Qui est Guy Kawasaki? Il est né en 1954 à Honolulu. C'est un des premiers responsables marketing chez Apple en 1984. C'est à lui qu'on doit le concept d'évangéliste, comme je vous disais, dans les nouvelles technologies. Il a promu les produits de la marque Apple pendant plusieurs années. Il a été PDG chez Asus. Il a fondé des compagnies technologiques. Il a été écrit plusieurs livres, c'est maintenant une référence en termes de médias sociaux, en termes nouvelles technologies. Ses derniers livres traitent des médias sociaux, l'art de répondre. C'est un peu son modus operandi maintenant. C'est comment on change nos esprits, comment on travaille. Bref, il est dans le développement personnel. De près, de loin. Il a été dans la tech pendant longtemps, mais quand il a été dans la tech, il a travaillé pour Steve Jobs à deux reprises, comme je l'ai dit. Et il a une anecdote dans cet article-là qui explique qu'à un moment donné, Steve Jobs arrive dans son bureau avec un inconnu et Steve Jobs lui demande « Que penses-tu de telle compagnie ?» Et Guy Kawasaki savait qu'il fallait pas mentir à Steve Jobs parce que sinon, c'était la porte. Parce qu'il arrivait à le détecter. Et puis après ça, Guy Kawasaki a dit, tel produit, c'est pas bon, c'est moyen, c'est ci, c'est ça. Steve Jobs l'a remercié, puis après ça, a présenté la personne, l'inconnu qui était à ses côtés, puis on lui dit, regarde, c'est le chef de l'entreprise dont tu viens de détruire le produit, grosso modo. Et ça fait partie de ces anecdotes, et Guy Kawasaki a résumé dans cette anecdote-là à trois points par rapport à la vie au travail avec Steve Jobs. Ces trois points, c'est « Dis la vérité », et puis lui, il résume ça en disant « L'honnêteté est un test de votre compétence et de votre caractère. Vous avez besoin d'intelligence pour reconnaître ce qui est vrai et vous avez besoin de force pour en parler. » C'est un peu ce qu'on disait tantôt, hein, quand on se connaît un peu mieux puis qu'on est honnête pour nous, ça va déjà un petit peu mieux. On sait déjà ce qu'on veut pas ou ce qu'on veut. Le deuxième point de Guy Kawasaki par rapport à l'article, c'est « Plus la personne est sage et plus elle aspire à la vérité. Dire aux gens que leur produit est bon, il fait référence à l'article, pour être gentil ou positif, ne l'est pas pour l'amélioration de la personne, à moins de l'impressionner. C'est même trompeur pour des gens comme Steve Jobs. J'ai toujours eu cette relation-là, il y a toujours les façons de le dire aussi, mais quand on essaye d'enrober trop, des fois, on dit plus la vérité. Il y a deux types de personnes, généralement, avec qui on travaille. Des juniors qui veulent gagner en confiance. Alors là, c'est peut-être pas le moment de les détruire. Mais un senior, lui, recherche pas nécessairement des gentillesses, recherche la vérité. C'est un peu ça que qu'exprime Guy Kawasaki. Et son troisième point, c'est l'honnêteté. Oui, vas-y.
Audrey. Ouais, je voulais dire que... Ouais. En fait, on peut être franc avec les gens tant qu'on est bienveillant, en fait.
C'est ça.
La clé, c'est ça, je pense. On peut tout dire à quelqu'un. Tu vois, moi, dans mon cercle amical ou familial, on me dit souvent « Bon, allez, vas-y, Audrey, tu lui dis, ça passe mieux quand c'est toi. » Et en fait, c'est juste que j'essaye au maximum de faire preuve de bienveillance. Et même si quelqu'un a fait une erreur, une grosse erreur, ou voilà, je dis « Ok, t'as fait ça. » T'en as conscience, qu'est-ce qu'on fait? Enfin voilà, tu vois, essayer toujours de se mettre à la place de l'autre et d'être bienveillant. Donc la vérité passe toujours mieux si on est bienveillant et qu'on jette pas ça à la figure des gens comme si c'était des monstres, quoi. C'est juste la façon d'aborder qui compte, finalement.
Ouais, ma mère a dit ça autrement, elle a dit on peut tout dire, il suffit de savoir le dire.
Ouais, elle résume très bien ta maman. Merci. Merci maman de Mathieu, parce que oui, c'est ça.
Et puis le dernier point de Guy Kawasaki, puis c'est pas fou, c'est que l'honnêteté, c'est pas seulement d'être meilleur, c'est que c'est aussi plus simple que de mentir. À force de mentir, ben on a tendance à concocter des mensonges, puis il faut garder les traces de ces mensonges-là. Alors, c'est un peu les trois points qu'ont ressorti de la carrière de Guy Kawasaki avec Steve Jobs, c'est que c'était plus simple pour lui d'être honnête, c'était plus simple de toute façon et plus sage de dire la vérité. Et il a remarqué que au final, ben ça lui a beaucoup plus servi d'être véridique, honnête. Ben évidemment, comme dit Audrey, dans la bienveillance. Et si vous connaissez Guy Kawasaki, il est totalement dans la bienveillance. Je vous recommande beaucoup ses articles et ben ses livres aussi. Il fait aussi des fois des passages dans certains podcasts. C'était mon bout, ben un peu historique versus à Steve Jobs.
Ouais, et slash philosophie, c'était bien.
Alors, on va terminer cette émission qui va être un sacré... qui va être
sacrément... On avait dit qu'on ferait court.
Ouais, on n'est pas capable. On devrait faire plus de d'Apple différemment, mais en même temps, après ça, on aurait pu de temps pour d'autres projets. Puis Alors Audrey, on peut te rejoindre où si on veut continuer certaines des discussions philosophiques, techniques, et si on a besoin d'aide pour tes capsules, on trouve tout ça où?
Alors, principalement, vous me trouverez sur Twitter, @AudreyCoulot, tout attaché, sur mon site web audreycoulot.com, bien sûr, et puis, oui, moi j'aime bien échanger sur les sujets, tout ce qui est évolution liée à la technologie, je trouve ça vraiment très intéressant de voir comment les gens utilisent leurs produits, l'usage et tout. Donc venez en parler avec nous sur Twitter, c'est vraiment sympa d'échanger et puis de progresser tous là-dessus. Et toi, Matt, on te retrouve où?
Profduweb.com, profduweb.com, vous allez retrouver tous les liens qui vont bien. Vous pourrez trouver des liens pour me parler en privé, en public. Sur le site d'Audrey Coulot, n'hésitez pas, elle a un petit bouton pour faire des dons maintenant. Tout ce qu'elle fait gratuitement, c'est assez fabuleux pour l'écosystème Apple. Gentil. Et ses articles et ses vidéos. Alors, n'hésitez pas, un petit don, des fois, ça fait plaisir. Ça donne un petit peu de boost pour continuer. Même si c'est pas grand chose, c'est surtout de la motivation, des fois, qu'on cherche à travers ces boutons-là. Alors, n'hésitez pas, audreycoulot.com. Et appuyer sur le bouton pour faire un don à Audrey cette semaine.
Et après, oui. Mathieu, pour soutenir tous tes podcasts, tu as un Patreon.
Oui.
Allez, je te renvoie l'ascenseur. Tu as un Patreon où on peut te soutenir à partir de 1 € par mois, 1 $ par mois.
Oui. Et sur le Patreon, vous avez du contenu exclusif. Vous allez pouvoir voir un petit peu de ma vie, du privé en arrière. Bref, c'est l'endroit pour discuter de choses un peu plus sérieuses. C'est sur mon Patreon, si ça vous dit, si vous voulez nous remercier, n'oubliez pas. À la semaine prochaine, on aura d'autres sujets, probablement d'autres nouveautés d'Apple, encore une fois. Et si vous voulez nous rejoindre, ben n'hésitez pas à aller sur le site applediff.com. On a un Instagram maintenant, AppleDiff. On a un Twitter, AppleDiff. Ouais. Et évidemment, une chaîne, une page Facebook sur laquelle vous pouvez échanger 3 canaux. On n'est peut-être pas à l'instant près, mais on répond toujours, Audrey, hein?
Ouais, on répond toujours, pas forcément dans l'immédiat puisqu'on gère nos comptes respectifs, bien sûr, mais ouais, on est toujours là. Et puis on est fin mars, donc on va se retrouver, on va essayer mi-avril pour reprendre le rythme.
Ouais.
Dans pas très longtemps au final. Et puis on pourra peut-être décortiquer, en savoir un peu plus sur ce qu'on a expliqué aujourd'hui. C'était un peu, il y avait beaucoup de choses à voir, donc on espère qu'on a été assez clair dans nos explications. Mais en tout cas, on reparlera bien sûr de tous ces services une fois qu'ils sont disponibles dans nos pays respectifs.
Et toutes mes excuses par avance du montage, ça a été chaotique avec l'enregistrement Instagram. On va essayer de s'améliorer la prochaine fois. On vous souhaite un très bon début de mois d'avril. Ciao, ciao, bye bye.
À bientôt.